aujourd'hui à l'émission, émission spéciale sur l'Alberta. On vous parle de conservatisme et des principes politiques du Wild Rose Alliance. Finalement, on va vous parler des sables bitumineux. Donc, bonne émission, on se retrouve dans quelques minutes. Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre quatrième émission de Connaître la suite. Donc, une autre semaine qui débute pour nous, parce que nous, les semaines, ils commencent le vendredi, Danny. Je ne sais pas si tu étais au courant.
Non, je n'étais pas au courant.
Oui, parce qu'à chaque vendredi, c'est là où on prépare la semaine déjà qui s'en vient. On est toujours en préparation des prochaines émissions. Et comme on l'avait dit la semaine passée, encore cette semaine, on va avoir une bonne émission, je crois, bien remplie, de nombreux invités, des invités qui vont sûrement, comme par les semaines passées, nous intriguer par leur sujet. Et d'ailleurs, je vous rappelle immédiatement la façon que vous pouvez nous rejoindre. Le plus simple, c'est évidemment pour ceux qui sont abonnés à Twitter, on le dira jamais assez. Donc, connaître suite, tout ça en un mot. Donc, ajoutez-nous et suivez-nous. Donc, c'est la façon d'avoir tout ce qu'on met en ligne très rapidement et d'être informé sur connaître la suite. Et bien sûr, il y a toujours le email. Donc, c'est info@connaitrelasuite.com. Donc, si vous avez des suggestions, des gens que vous aimeriez entendre à notre tribune, donnez-nous vos idées. Puis peut-être que vous avez aussi des découvertes que vous voulez partager avec le reste de la collectivité. Ce soir, comme premier invité, on a le plaisir de s'entretenir avec Frédéric Boily, qui est professeur agrégé au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et auteur du livre « Le conservatisme au Québec ». Bonsoir, M. Boily.
Bonsoir.
Ça va bien?
Oui.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir.
Tout d'abord, M. Boily, est-ce que l'on parle ce soir un Albertain d'origine ou un Québécois immigrant d'Alberta?
Un Québécois qui est en Alberta depuis 7 ans maintenant.
Sept ans.
Est originaire, en fait, je suis originaire du lac Saint-Jean.
Ah, OK, un bleuet.
Un bleuet, effectivement, un bleuet en Alberta.
Donc, ce qui vous a amené là-bas, c'est votre travail comme professeur au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta?
Exactement, comme plusieurs Québécois, autour de 2003 jusqu'à 2004, 2006, il y a eu beaucoup de Québécois qui sont venus pour travailler en Alberta, évidemment dans les sables bitumineux, mais aussi dans d'autres domaines. Et moi, c'est ici au campus Saint-Jean que j'enseigne la science politique, en français.
En français en plus? C'est un campus francophone ou...
Oui, le campus Saint-Jean, c'est le campus francophone de l'Université de l'Alberta. Donc, nous offrons des programmes dans différents domaines, dont les sciences sociales. Mais tout se passe, nos cours sont en français. Tout se passe en français.
Et c'est situé à quelle ville?
Edmonton.
C'est à Edmonton. OK, parfait. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler du conservatisme. Donc vous avez écrit un livre sur le conservatisme au Québec. On voulait vous parler avant ça du conservatisme en Alberta. Premièrement, on voudrait savoir comment vous décrivez ça. Ça serait quoi votre définition du conservatisme?
La façon dont moi je définis le conservatisme en général, c'est de dire, écoutez, il faut faire attention d'avoir une définition trop rigide du conservatisme, c'est-à-dire d'avoir une définition qui fait exclusivement référence à l'idée que les conservateurs sont des gens qui sont contre les minorités, notamment les homosexuels, ou qui ont une définition très religieuse de la vie sociale. Moi, la façon dont j'entrevois le conservatisme, surtout aujourd'hui, c'est de dire que le conservatisme n'existe pas dans sa forme pure. C'est-à-dire que le conservatisme, c'est une idéologie politique, et comme toute idéologie politique, ben, ça se transforme au contact des événements politiques. Et donc, les conservateurs sont ceux qui vont, à un moment donné, réagir contre une évolution sociopolitique actuelle. Ils vont dire, écoutez, les choses ne vont pas dans la bonne direction, et c'est des gens qui vont mettre les freins. Évidemment, vous avez des conservateurs purs et durs qui, eux, veulent que les choses freinent complètement, et même que la voiture, si je puis employer cette image-là, retourne vers l'arrière, alors que vous avez des conservateurs modérés qui, eux, OK, il faut freiner l'évolution sociopolitique actuelle parce que les choses sont en train de se dégrader. Et donc, c'est pourquoi on peut retrouver des conservateurs, des fois, qui sont pas nécessairement toujours à droite. Et vous pouvez avoir même des gens de gauche qui, à un moment donné, lorsqu'ils sont trop attachés à un certain héritage, lorsqu'ils veulent pas que les choses bougent, ben qu'ils se retrouvent paradoxalement à avoir un petit côté conservateur. Et donc moi, c'est pourquoi j'ai une définition du conservatisme qui évite d'être trop rigide, parce que sinon, à mon avis, on finit par perdre ce que c'est que ce qu'est le conservatisme, où sont les conservateurs, et on se retrouve avec des images qui sont pas tout à fait correctes de la réalité politique d'une société, que ce soit le Québec ou l'Alberta.
Et puis d'après vous, c'est-tu pour ça qu'à un moment donné, on a vu apparaître le terme progressiste, conservateur? C'est-tu parce qu'ils voulaient changer leur image un peu, d'après vous?
Oui, bien évidemment, les conservateurs veulent perdre l'image, une image qui est trop rigide, et donc on a accolé ce terme de progressiste conservateur. Il faut dire qu'il y a une différence aussi sur la scène intellectuelle et la scène politique. Lorsqu'on est au sein d'un parti politique, évidemment, il faut être capable de faire preuve de souplesse. Vous savez, même Monsieur Stephen Harper, qu'on accuse d'être rigide, et il est rigide, ça c'est vrai aussi, à certains moments, on le voit faire des choses qui déplaisent grandement aux conservateurs les plus purs et durs, notamment en Alberta. Et c'est pourquoi, lorsqu'on est sur la scène politique, c'est très difficile de rester purement conservateur, et qu'on est toujours à un degré ou à un autre progressiste conservateur. Et ça vaut, je le répète, même pour le cas de M. Harper. Mmh,
c'est par électoralisme, entre autres.
Oui, ben il y a cette réalité électorale qui est toujours là. Un parti politique au Canada, c'est toujours une coalition. C'est toujours une coalition. Le mode de scrutin fait en sorte que on est obligé d'élargir le spectre pour être capable de réunir au sein d'un parti politique, et en l'occurrence le Parti conservateur, il faut réunir des gens qui sont beaucoup plus à droite sur le plan fiscal et d'autres qui sont un peu plus progressistes et qui veulent un État quand même qui intervient. Vous savez, aujourd'hui, c'est le budget a été révélé en Alberta. En fait, c'est hier, mais ça a créé beaucoup une onde de choc, justement, parce que on voit cette division-là au sein du Parti conservateur albertain entre une aile très à droite sur le plan économique qui, elle, aurait voulu que le budget soit équilibré et qu'on procède à des coupes, alors qu'au sein du Parti conservateur, vous avez une autre aile plus progressiste qui, elle, n'a pas hésité à réclamer un budget qui ne soit pas équilibré. C'est ce qui est arrivé finalement. Et là, on voit que au sein du Parti conservateur albertain, présentement, il y a une lutte entre deux factions.
Okay. Puis d'après vous, y a-t-il des chances de départ vers le Wild Rose Alliance à cause d'un budget qui ne satisfait pas une certaine tranche du Parti conservateur?
Oui, absolument. Le Wild Rose Alliance, bon, qui est apparu sur la scène politique, en fait, depuis 2004, mais c'est surtout depuis que Mme Smith le dirige, il y a maintenant plus d'un an et demi, que là, on voit le parti de la rose sauvage, si on veut faire une traduction, qui est qui a une stratégie là, qui est très agressive et qui, dès que le gouvernement semble avoir une politique qui est un peu trop centriste, l'attaque immédiatement en disant que c'est pas assez à droite. Et Mme Smith, qui est très à l'aise devant les caméras, c'est quelqu'un qui vient des milieux journalistiques et qui a été au journal de Calgary Herald à Calgary, parce que sa base est surtout à Calgary, a véritablement des chances disons, d'élargir la faille qui est en train de se produire présentement au sein du Parti conservateur entre les deux groupes. Et le budget d'aujourd'hui, d'hier, avec les réactions qu'on a vues aujourd'hui, ça pourrait conduire effectivement le Wild Rose, peut-être pas à prendre le pouvoir lors de la prochaine élection, ça me surprendrait, mais peut-être dans deux élections, là, si la faille s'élargit entre les deux groupes.
Et les derniers sondages démontrent quoi au niveau des électeurs? Est-ce qu'on a tendance justement à s'en aller vers cette droite-là un petit peu plus rigide?
Oui et non. Je vous dis oui et non parce que le dernier sondage, il y a eu un sondage avant Noël, donc autour du 10 décembre, où là, on laissait entendre que le Wild Rose avait, dans les intentions de vote, avait rejoint le Parti conservateur, qui était maintenant à 34%. Alors, dans les intentions de vote, le Parti conservateur, habituellement, gagne les élections avec toujours plus de 45% des voix. Ça, c'est plus mauvais score, et habituellement, même dans le 50%. Alors, donc, avoir un sondage qui indiquait que le Wild Rose avait 32% d'appui dans les intentions de vote, c'était bien. Par contre, au mois de janvier, là, l'écart s'est un peu creusé. Les conservateurs sont à 38% et le Wild Rose est retombé autour de 25-26%. Mais pour un parti qui n'a que 4 députés et dont la chef n'est pas encore élue, c'est quand même des résultats qui sont assez encourageants pour eux, là, parce qu'il n'y a pas eu encore de véritable confrontation électorale entre le Wild Rose Alliance et le Parti conservateur. Donc, il y a une possibilité pour eux, véritablement, là, d'être une menace, plus en tout cas que le Parti libéral ou le NPD.
En gros, ça ressemblait à quoi le budget déposé hier? Les grandes mesures?
Écoutez, la grande mesure, celle qui fait jaser, c'est qu'il y a un déficit. Depuis longtemps ici, les années Klein, notamment, de Ralph Klein, le gouvernement se faisait un point d'honneur de ne pas avoir de déficit, et même une province sans dette. Lorsque M. Klein a parti, on n'avait plus de dette. L'Alberta avait même deux gros fonds, ce qu'il appelle un fonds de prévoyance, une espèce de compte d'épargne, si vous voulez, où il y avait près de 15 milliards de dollars, avec un autre fonds héritage, le fonds héritage, qui lui est un fonds où va l'argent du pétrole. Et là, depuis 3 ans, les conservateurs ont déposé des budgets qui sont déficitaires, et donc on renfloue le budget en prenant de l'argent du fonds de prévoyance. Et là, c'est ce qu'on fait encore, un déficit de presque d'un peu plus de 3 milliards de dollars, 3,4 milliards, et on finance des projets d'infrastructures notamment. La réponse du gouvernement, c'est de dire, c'est le temps maintenant d'investir parce que en Alberta, à un moment donné, autour de 2005-2006, les coûts de construction étaient très, très élevés, les coûts de main-d'œuvre notamment, il manquait de main-d'œuvre, c'était en 2005-2006, il y avait des offres d'emploi dans à peu près tout ce qu'il y avait de vitrines de commerce. On manquait de main-d'œuvre et donc ça coûtait cher. Et donc le gouvernement s'était dit autour de 2007-2008 que c'était le temps d'investir parce que justement l'économie a commencé à ralentir avec la fameuse crise économique et donc que c'était le temps à la fois pour économiser mais aussi pour soutenir l'économie. Et là, le gouvernement arrive avec un budget hier qui va encore dans ce sens-là. Mais le grand changement, c'était qu'auparavant, il n'y avait pas le Wild Rose qui, lui, critiquait, pouvait critiquer le gouvernement. Et là, c'est ce que fait le parti de Mme Smith, c'est de dire, vous auriez pu avoir un budget équilibré si vous aviez reporté les projets de construction d'infrastructures, les étaler sur 3 ou 4 ans, plutôt qu'essayer de faire ça trop rapidement. Donc, le gros point du budget, c'est la question du déficit.
Okay. Les finances publiques.
Oui, les finances publiques. Okay.
Dans les autres partis qui existent en Alberta, c'est pas une grosse force de frappe, là, dans ce qu'on peut comprendre pour tout ce qui n'est pas conservateur ou le Wild Rose Alliance. C'est quoi les autres partis?
Vous avez le Parti libéral qui a déjà été une menace. En fait, le Parti libéral, lorsque l'Alberta s'est joint à la Confédération, mais là, on monte à 1905, et a été au parti, été au pouvoir pendant une dizaine d'années. Mais depuis ce temps-là, n'a jamais goûté au pouvoir, sauf en 93, où là, ils ont pas assez proche, si ça n'avait été de Ralph Klein, c'était sa première élection, puis M. Klein avait fait une très bonne campagne, il avait redroitisé un peu le parti, parce que le Parti libéral, à ce moment-là, était assez à droite au début des années 90. Mais là, présentement, le Parti libéral, son chef a aussi annoncé sa démission, c'est un parti qui se cherche, il y a moins de 10 députés, il pensait faire une percée à la dernière élection, mais finalement, les conservateurs ont presque tout raflé. Et donc, le Parti conservateur est démoralisé. Le Parti libéral, pardon, est démoralisé. Les néo-démocrates, c'est deux députés seulement. Le chef du parti avec un autre député, donc c'est pas une très grande force de frappe. Remarquez qu'à Edmonton, la gauche est un peu plus forte. À Edmonton, le Parti conservateur a un peu plus de difficultés. Le parti de Mme Smith, le Wild Rose, a véritablement des problèmes à Edmonton. Il y a beaucoup plus de succès à Calgary. Et récemment, au mois de novembre, est apparu un nouveau parti politique qui fait pas mal jaser parce que il veut utiliser une nouvelle stratégie, la stratégie des réseaux sociaux pour essayer de gagner le cœur des électeurs, le Alberta Party. C'est un parti présentement qu'on se situerait probablement au centre-gauche. Je vous dis probablement parce que c'est pas très clair. Ils n'ont qu'un député, un transfuge libéral là, qui au mois de janvier est passé du côté du Alberta Party. Mais ce qui est assez frappant, c'est que tous les partis présentement sont en déficit de leadership. Monsieur Stelmach, le chef du Parti conservateur, a annoncé qu'il quittait. Donc, c'est un chef qui est en sursis. Le Parti libéral, son chef, a aussi annoncé une semaine après Monsieur Stelmach qu'il quittait. Madame Smith n'est pas encore élue. Elle a été nommée chef du parti, mais elle n'est pas encore elle n'a pas de siège encore à l'Assemblée législative. Les néo-démocrates, oui, ont un chef, mais ils ne sont que deux députés. Et le Alberta Party, qui a un seul député, un transfuge libéral, n'a pas de chef non plus. Donc, on est dans une drôle de situation politique en Alberta qui est vraiment assez peu conventionnelle, même pour dans les autres provinces. Là. C'est rare de voir autant de bouleversements politiques. C'est pour ça certains commentateurs ont parlé d'un tsunami politique au mois de janvier, à la fin du mois de janvier ici, parce que les dominos se sont mis à tomber, les chefs quittant, et c'est pourquoi là, il y a comme un vide de leadership politique sur la scène politique albertaine.
Et on tente d'expliquer comment ce bouillon-là, est-ce que c'est lié justement à l'augmentation de la productivité de la province, puis comment on en est rendu là aujourd'hui justement à avoir ces chambardements-là?
C'est en fait, il faut remonter aux dernières années de M. Klein. Lorsque moi je suis arrivé ici, je vous ai dit maintenant depuis 7 ans, ma première élection albertaine, c'était en 2004, et j'ai eu la grande surprise après avoir vécu des élections québécoises de voir que il ne se passait à peu près rien ici pendant la campagne électorale. M. Klein ne faisait pratiquement aucune apparition publique, se contentait de faire une campagne de 11h du matin à 4h de l'après-midi. Il faisait pratiquement rien. Les conservateurs étaient assurés de gagner, et donc ils prenaient ça vraiment à la légère. Et ça a fait en sorte que pendant quelques années, le Parti conservateur était comme sur le pilote automatique, si vous me passez l'expression, et qu'il y avait un manque de direction politique, et que M. Klein, qui était vraiment une figure très aimée, de tous les premiers ministres provinciaux, lorsqu'on faisait des sondages sur les chefs qui étaient le plus appréciés, c'était toujours lui qui était le plus apprécié. Mais sauf qu'en 2004-2005, là, les choses ont commencé à se dégrader. M. Klein ne gouvernait plus. Et donc, c'est là où, lorsqu'il a annoncé qu'il quittait, on l'a pratiquement mis dehors à la porte du gouvernement parce qu'il voulait s'accrocher, il voulait être là pendant 3 ans, mais on lui a dit que c'était trop long. Et il a finalement quitté, et c'est là qu'il y a eu une course à la direction entre 3 candidats. Entre M. Morton, Ted Morton, qui était en fait l'actuel ministre des Finances, mais il a démissionné pour se relancer à nouveau dans la course à la direction. Vous aviez M. Stelmach qui a finalement gagné la course à la direction, et un représentant des milieux d'affaires de Calgary que tout le monde voyait comme gagnant, Jim Denning. Mais contre toute attente, c'est M. Stelmach qui a gagné. Il a commencé 3e et il s'est faufilé entre les 2 candidats. Un peu comme Stéphane Dion l'avait fait avec le Parti libéral. Et donc, il est arrivé à la tête du parti sans que trop personne ne l'attende. Et ça a créé immédiatement un ressac, notamment de la part des milieux d'affaires de Calgary. Et on dit que 10 jours à peine après l'élection de M. Stelmach comme chef du Parti conservateur, déjà il y avait des gens qui avaient approché Mme Smith pour qu'elle forme un groupe pour lutter contre M. Stelmach. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'est arrivé tous les bouleversements politiques qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une volonté de s'opposer à M. Stelmach, qui vient surtout du sud de la province, de Calgary notamment, et aussi le fait que les transformations sociopolitiques en Alberta ont été particulièrement importantes. Moi, ça m'a frappé après la première année, lorsque je suis arrivé ici, de voir l'économie, en fait, a été trop bonne. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais l'économie allait s'est emballée. Le développement des sables bitumineux, surtout lorsque le prix du baril de pétrole était en haut du 100 $, ça a fait en sorte que ça a créé toutes sortes de problèmes, notamment en matière de logement. Vous savez, les migrations interprovinciales, les gens qui partaient du Québec, mais aussi de l'Ontario, de Terre-Neuve pour venir en Alberta, là, il y avait beaucoup de monde qui venait pour s'installer en Alberta, et ça a créé toute une série de problèmes, puis le gouvernement était incapable de réagir. Et ça fait en sorte que ça a créé de la grogne en matière de santé, notamment. Vous savez, au Québec, on critique beaucoup le système de santé. Bien, en Alberta, c'est la même chose. On critique très sévèrement le système de santé. Et ça fait en sorte que tout ça mis ensemble, les transformations sociopolitiques, un leadership contesté du côté des conservateurs, ben là, aujourd'hui, on assiste à un tremblement de terre politique présentement en Alberta.
Mais j'imagine qu'on est encore loin là d'un retour vers le centre ou vers la gauche là. On va demeurer conservatisme là en Alberta.
Oui, probablement, parce que d'abord, il faut savoir que les villes sont importantes en Alberta. Évidemment, Calgary et Edmonton, c'est deux métropoles. Vous avez Red Deer aussi, qui est une autre ville dont on connaît moins, mais qui est quand même grosse. Mais en même temps, vous avez toutes les régions en Alberta, et dans les régions, le Parti conservateur domine. Ça, c'est le grand défi pour tous les partis. Les libéraux n'ont jamais fait... ne parviennent pas à faire élire de députés en région, et pour les autres partis aussi, c'est ça qui va être compliqué. Et même pour le Wild Rose Alliance, ils vont devoir être capables d'avoir une structure organisationnelle en région. Vous savez, il y a des députés conservateurs en région qui ont des majorités de 60-70% sur leurs plus proches rivaux, ce qui fait en sorte que ça va être difficile pour les autres partis d'arriver à briser ce monopole conservateur-là. Mais c'est pas impossible, là, cela dit, mais il y a cette mainmise du Parti conservateur dans les régions, avec une carte électorale, évidemment, qui favorise les régions au détriment des villes, parce que la nouvelle population dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est arrivée en Alberta, s'est surtout installée dans les villes ou alors dans le nord de la province. Puis une autre chose aussi qu'il faut mentionner, le taux de participation électorale en Alberta est très faible. La dernière élection était autour de 41-42%. Comparé aux autres provinces, on est 10-15%, sinon 20% en bas de toutes les autres provinces. Et c'est vraiment un phénomène très particulier et, à vrai dire, vraiment inquiétant aussi, là. Cette désaffection politique des gens à l'égard des partis politiques est très forte ici, là.
Et si on fait le top 3 des parce qu'il y a des caractéristiques qui font en sorte qu'en Alberta, on demeure très près comme ça du conservatisme. Donc, si on compare, puis là, on est situé au Québec, et on a eu des périodes fortes, effectivement, où les partis conservateurs au Québec ont été très forts, mais qu'est-ce qui caractérise, en fait, les Albertains pour maintenir cette position-là? Puis là, vous l'avez tantôt, vous en avez fait un peu une brèche en nous disant que c'est depuis le début du siècle là, que les conservateurs sont bien assis au pouvoir là-bas. Qu'est-ce qui caractérise les gens, en fin de compte?
Vous savez, ça, c'est une question que je me posais beaucoup lorsque je suis arrivé ici. Comment se fait-il qu'on soit si attiré par ça? Bon, évidemment, il y a les aléas de la carte électorale qui font en sorte, qui favorisent les régions, qui font en sorte que ça fausse un petit peu le portrait. Parce qu'il existe quand même une gauche en Alberta, notamment Edmonton, comme je vous l'ai dit. Parfois, on nomme Edmonton Redmonton.
Ah oui?
Oui. Mais bon, il faut quand même pas l'exagérer. La gauche est pas si bien organisée. Mais c'est vrai qu'elle est divisée en différents partis. Puis s'ils parvenaient à s'unir, le portrait politique de l'Alberta serait un petit peu plus nuancé. Il faut se souvenir que le parti néo-démocrate de Jack Layton n'a qu'un député. Il est en Alberta, Linda Duncan. et donc Edmonton même. Ça fait en sorte que donc il faut se méfier un peu de ça. Par contre, là où il y a vraiment une différence, je vous dirais, c'est le rapport qu'on a au gouvernement, le rapport qu'on a à l'État surtout. Ce qui est plus fort ici, et ça je m'en suis aperçu au fil du temps, c'est que on attend moins de l'État. Vous avez, c'est évidemment des groupes qui demandent des choses de l'État, mais de manière générale, on pense que l'État ne doit pas trop en faire sur la scène sociale. Et ça, c'est même partagé par les autres partis politiques. Vous savez, même le Parti libéral, lorsqu'il est parvenu à menacer le Parti conservateur au début des années 90, c'est précisément parce qu'il se faisait un peu plus à droite, il se voulait un peu plus à droite. Et donc, il y a ce rapport-là particulier à l'État, je pense, qui nous permet de comprendre qu'en Alberta, on n'attend pas trop de l'État et donc que les programmes des partis politiques doivent aller dans ce sens-là. C'est pas qu'on veut pas que l'État fasse rien. Par exemple, dans les sondages d'opinion, ça c'est toujours démontré, les Albertains pensent que le système de santé va mal, mais ils veulent pas d'un système non plus de santé qui soit privatisé. Parce que si ça avait été le cas, il y a longtemps que ça serait fait. Monsieur Klein, notamment, a souvent parlé de privatisation du système de santé autour des années 2000, mais ça s'est jamais fait précisément parce qu'il reste attaché à ça. Mais hormis le système de santé, éducation, on reste quand même, on veut pas que l'État en fasse trop. On préfère un État qui soit plus distant, et donc ça fait en sorte que ça favorise les discours qui sont plus à droite, et on s'attend à ce que ce soit surtout la grande entreprise, et évidemment tous les l'industrie pétrolière, qui soit le vaisseau amiral là, pour créer de la prospérité économique en Alberta, alors qu'au Québec, ben, on attend plus de l'État. Il est vrai que Peter Lougheed, des années 70, donc le premier ministre conservateur, avait une stratégie de diversification économique qui faisait appel à l'État. Mais c'était loin de ce qu'on retrouvait au Québec, là. C'était pas la même chose. Oui, on voulait que l'État fasse certaines choses. Par exemple, M. Stelmach, la semaine dernière, a annoncé qu'il y aurait des subventions pour aider des raffineries à s'installer dans le nord d'Edmonton, un endroit qui s'appelle Fort Saskatchewan, et qui deviendra une espèce de lieu où il y aurait des raffineries de pétrole. Mais en même temps, on laisse les grandes compagnies gérer ça. On donne un coup de pouce, mais on veut pas que l'État soit celui qui organise tout. Et ça fait en sorte que tous les partis politiques qui sont sérieux et qui veulent prendre le pouvoir doivent trouver un moyen d'avoir un discours qui est plus à droite sur le plan économique.
Et les médias albertains, eux, ils réagissent comment au niveau au conservatisme? Parce qu'ici, on sait, les médias au Québec, c'est plus à gauche. Comment les médias albertains réagissent à cet historique de conservatisme en Alberta?
Écoutez, je vais prendre l'exemple du budget justement qui a été révélé, comme je vous disais hier, et là on voit bien le portrait. Bon, vous avez des journaux comme le Edmonton Sun, le Calgary Sun, qui sont un peu l'équivalent là, du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Eux ont été très très critiques à l'égard du budget, donc on voit qu'eux ils partagent une optique davantage à droite. Alors, les deux autres grands quotidiens, le Calgary Herald, donc évidemment Calgary, et le Edmonton Journal. Le Edmonton Journal, je vais vous dire, a une position un petit peu plus critique à l'égard des conservateurs. De manière générale, je vous dirais qu'ils sont plus centristes, et parfois même des positions presque de centre-gauche. Alors que le Calgary Herald est plus centre-droit. Et donc, dans le portrait général, je vous dirais, c'est une question de culture politique. Hein. Vous savez, parfois, on a présenté l'Alberta comme étant une sorte d'État américain. Et donc, ça fait en sorte que les médias, ben, ils baignent dans cet environnement-là. Par ailleurs, vous avez des journaux aussi qui vont avoir un agenda plus à gauche. Et on le voit notamment avec ce qui est un peu l'équivalent du journal Voir à Québec, le C Magazine et des journaux de ce type-là qui, eux, ont une position très critique à l'égard des conservateurs et qui sont des journaux un peu plus urbains aussi, il faut bien le dire, donc qui sont à Edmonton ou Calgary. Ça fait en sorte que là, vous avez une position qui est plus à gauche qui va s'exprimer. Évidemment, bon, vous avez les médias qui sont en région. Les médias qui sont en région, ben, c'est des préoccupations plus régionales et qui sont un peu plus à droite.
Puis quand le Parti libéral veut avoir de l'espace média, est-ce qu'il réussit à en avoir dans une optique comme ça?
Il pourrait en avoir. Je vous dirais que c'est pour le Parti libéral, c'est pas le problème, c'est pas tant les journaux que les chefs qu'ils ont choisis. Le Parti libéral ici en Alberta n'arrive pas à trouver des chefs qui sont capables de mettre les partis le parti sur la carte médiatique. C'est ils choisissent des gens qui sont plutôt intellectuels, qui sont disons du style de Stéphane Dion. Donc, vous voyez un peu le portrait, pas ouais, des gens
ça
qui...
Ça aide à comprendre.
Donc, c'est des gens qui ont une bonne tête, mais qui, en même temps, n'arrivent pas à passer auprès des médias. Mmh. Et donc, comme les médias... En fait, le problème, c'est pas les médias, c'est les chefs qui choisissent n'arrivent pas à attirer l'attention médiatique. Et ça fait un débat politique qui, parfois, est un peu... celui qui y parvient le mieux, c'est le chef du parti néo-démocrate, Brian Mason, qui est probablement, toute catégorie confondue, le meilleur politicien présentement à l'Assemblée législative. C'est-à-dire que lui connaît ses dossiers et parvient à mettre le parti, malgré que le parti n'ait que deux députés, parvient à mettre le parti dans les journaux et dans les médias, ce que ne parvient pas à faire les libéraux. L'autre qui parvient mieux à faire ça, évidemment, c'est Mme Smith, mais bon, Mme Smith, elle est à droite. Mmh.
Tout à l'heure, tantôt, vous avez parlé des rapports qui étaient différents là-bas des gens par rapport à l'État. La syndicalisation, ça dit quoi en Alberta? Est-ce qu'on est en deçà des taux qu'on peut connaître au Québec? J'imagine que oui. Je connais déjà un peu la réponse, mais est-ce que les syndicats occupent beaucoup de place sur la place publique?
Non, ils n'occupent pas beaucoup de place. C'est ça, c'est une des différences marquantes aussi avec le Québec, c'est que le syndicalisme ici a été mis de côté. C'est pas qu'il n'y a pas de syndicats, au contraire, on les voit de temps à autre, mais ils sont pas dans l'équation du pouvoir, ils en font pas partie. Là. Vous n'avez pas un parti qui va essayer de s'appuyer véritablement sur eux, sauf les néo-démocrates, un peu le Parti libéral, mais encore le Parti libéral s'en méfie parce qu'il sait que c'est pas très bien vu. Donc ici, c'est un agenda plutôt pro-industrie, pro-grande compagnie, ça fait en sorte que les syndicats n'arrivent pas à influencer le jeu politique comme on peut le faire au Québec, par exemple.
On parle de quoi en termes de pourcentage?
Écoutez, j'ai pas les pourcentages en tête, mais moi, ce qui m'a frappé lorsque je suis arrivé ici, c'est que ça m'a pris un certain temps en disant de voir les syndicats. Mmh. C'est-à-dire qu'on les voit pas, ils sont pas présents, okay. Alors qu'au Québec, écoutez, vous ouvrez un journal et très rapidement, chaque semaine, vous avez des chefs syndicaux qui sont là dans l'espace médiatique et qui vont donner leur opinion. Oui. Ici, on l'a un peu, mais c'est pas, ça n'a pas le même poids.
Ici, au Québec, on a l'impression même que les syndicats gèrent l'agenda politique. Est-ce que vous pensez, parce que vous avez habité longtemps au Québec, est-ce que c'est, selon vous, les politiciens au Québec? Parce que si ils n'occupent pas cette place-là en Alberta, j'imagine c'est parce qu'ils se sont frappés le nez ou ils n'ont pas du tout essayé parce que c'est pas dans la mentalité là-bas?
Vous voulez dire en Alberta, ouais, c'est pas dans la mentalité, c'est pas le jeu politique est organisé différemment. C'est que ça fait en sorte que si depuis les années 70, en fait, si vous voulez avoir une voix politique en Alberta, d'une certaine façon, c'était pas en militant au sein des autres partis ou en militant à l'extérieur dans d'autres organisations, c'était plutôt de se faire entendre au sein du Parti conservateur. Et donc, le vrai jeu politique, d'une certaine manière, se passe à l'intérieur des groupes qui existent au sein du Parti conservateur. Et c'est ce qu'on a vu là maintenant, c'est ce qu'on voit maintenant avec M. Stelmach, qui représente le centre-droit, avec M. Morton, qui lui vient de démissionner des finances, comme je l'ai dit, qui représente l'aile plus à droite. Et donc, c'est pourquoi le jeu politique n'est pas organisé de la même façon. Et je dois avouer que moi, ça m'a pris un certain temps avant de comprendre comment ça fonctionnait ici. Alors qu'au Québec, bon, on a certains repères. On sait que le Parti québécois est proche de certains milieux syndicaux. Et donc, vous avez le Parti libéral qui, lui, a ses propres alliés. L'ADQ qui essayait de se frayer un chemin entre ça. Mais ici, les choses se passent totalement de manière différente.
Oui. Et aussi, qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde l'histoire politique en Alberta, on voit que ça a été quatre dynasties politiques, hein, on pourrait dire, parce que le Parti libéral a géré la province de 1905 à 1921, qui est quand même, 16 ans. Ensuite, ouais. Les United Farmers of Alberta, aussi, un 14 ans. Ensuite, le Crédit social, 36 ans. Donc, c'est vraiment des blocs. La façon que les Albertains votent, c'est des blocs de très longue durée.
Effectivement, à la blague, des fois je disais que la vraie société distincte, en tout cas sur le plan politique, c'était pas tant le Québec que l'Alberta, parce que c'est vraiment particulier. Il n'y a pas d'autres, provinces où un parti présentement est capable de dominer aussi longtemps. Et bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le White Rose est une menace au Parti conservateur, mais pour l'élection de 2012, il y a des fois, c'est peut-être probable. Il est fort probable que les conservateurs soient réélus, peut-être moins fortement, mais là, donc, ça veut dire que pour avoir connu une alternance politique ici en Alberta, il faut pratiquement avoir plus de 50 ans. Donc, c'est vraiment très particulier. Pourquoi il en est ainsi? D'abord, c'est évident que le Parti conservateur en Alberta, il y a une intelligence stratégique qui est très forte. Ils ont eu des chefs qui sont très forts. Peter Lougheed, on s'en souvient moins là, parce qu'il faut quand même avoir un certain âge pour s'en rappeler, mais c'était une figure politique très forte qui d'ailleurs avait développé des liens même avec René Lévesque. C'était quelqu'un qui était au centre droit, qui savait très bien comment gérer les choses et qui a su s'opposer au gouvernement fédéral, mais en même temps jouait habilement ses cartes. Monsieur Klein, peu importe ce qu'on peut en penser, c'était quelqu'un qui était populiste, mais qui était d'une certaine manière, qui avait un peu le style à René Lévesque. C'est-à-dire René Lévesque qui était appelé familièrement par tout le monde Tipoil ou René. Monsieur Klein, c'était un peu la même chose. Hein. Il y a quelques années, ils ont démoli une taverne à Calgary et bon. Les reportages qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire, c'était la taverne où M. Klein allait prendre un verre et où les gens, les habitués de la place, les sans-abri, allaient rencontrer M. Klein pour lui serrer la main et prendre évidemment un verre. Plus qu'un verre, en fait, avec lui.
Il était reconnu pour ça, un peu.
Hein. Oui, surtout à la fin, là, il était reconnu pour se lever avec des cornes, comme ils disent en anglais le matin. Là. Et donc, ça fait en sorte que M. Klein avait cette intelligence-là d'avoir fait vraiment des campagnes électorales très fortes, ses premières campagnes électorales. Bon, vers la fin, là, comme je vous l'ai dit, les choses se sont détériorées. Et ça fait en sorte que les conservateurs ont eu cette intelligence stratégique-là de sentir le vent quand il fallait tourner, devenir plus à droite, quand c'était avec M. Klein. Et là, maintenant, bon, avec M. Stelmach, là-dessus, il semble avoir, le Parti conservateur semble avoir commis une erreur avec M. Stelmach. Mais là, on va voir, peut-être que le Parti conservateur va parvenir à se renouveler comme il le fait avec M. Klein. C'est-à-dire, quand Peter Lougheed et Ralph Klein, il y avait eu un bref intermède de deux élections, soit de 1985 à 1992 avec Don Getty, qui avait été un épisode assez tumultueux pour les conservateurs. La province avait eu des déficits aussi, c'était l'industrie pétrolière avait été freinée dans son développement au début des années 80, donc ça a été des périodes difficiles sur le plan économique pour l'Alberta. Et avant ça, dans les années disons, du milieu des années 30 jusqu'au début des années 70, c'était bon le crédit social. Le crédit social qui, lui aussi, avait fait un certain changement. Au départ, le crédit social, on s'en souvient peut-être plus, mais ça avait une coloration de gauche assez importante. Hein. Il y avait des mesures sociales ou des mesures économiques qui aujourd'hui n'apparaissent plus comme étant à droite. Au contraire, à la première élection du Crédit social au milieu des années 30, en 35, si ma mémoire est fidèle, on disait qu'il y avait des gens de Calgary qui étaient allés à l'Assemblée législative et en fait à la mairie de Calgary et ils attendaient un chèque du gouvernement. Parce qu'on leur avait comme promis ça, et donc ça, c'est pas vraiment une mesure qui était à droite. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait donner de l'argent aux gens directement. Mais le parti sous Ernest Manning, donc le père de Preston Manning, avait entrepris une espèce de changement politique qui fait en sorte que le parti s'était vraiment mis derrière les milieux d'affaires et était véritablement devenu à droite. Donc, le comportement politique des Albertains est différent. Puis, il faut voir aussi qu'il y a une influence américaine dont, bon, je l'ai souligné tout à l'heure, l'Alberta qui a souvent été présentée comme la province la plus américaine, mais il y a beaucoup de vrai dans ça. Il y avait une immigration en provenance des États-Unis qui était très forte. Il y a des Américains qui considéraient l'Alberta comme la dernière frontière américaine, c'est-à-dire on s'était rendu au Pacifique et là, maintenant, il fallait monter vers le nord. Et monter vers le nord, ben, c'était monter vers l'Alberta, un peu vers la Saskatchewan aussi. Et ça a donné une coloration particulière à la à la culture politique américaine, là, qui ressemble un peu. On se méfie du gouvernement, on se méfie de l'État, et ça fait en sorte qu'il y a comme des blocs politiques qui se mettent en place pendant un certain temps. On les laisse gouverner, puis là, quand les choses se passent vraiment mal, ben là, on change à un moment donné. Donc, c'est pourquoi, comme vous l'avez mentionné, il y a eu 4 dynasties ou presque. L'histoire politique de l'Alberta, en termes de pour les partis politiques, se fait sensiblement rapidement et facilement.
Vous avez parlé d'Ernest Manning, là. Lui a été à quoi 25 ans au pouvoir, là.
Oui, il avait été longtemps au pouvoir aussi, M. Manning. Et bon, il avait comme formé également son fils, Preston Manning, qui l'accompagnait dans les dernières années. M. Manning, bon, ben c'était le vieux, disons, c'est la vieille Alberta. M. Manning représentait la vieille Alberta, c'est-à-dire l'Alberta qui était plus rurale. Ernest Manning, ressemblait beaucoup, disons, d'une certaine façon, à Maurice Duplessis. Mais c'était une Alberta d'un autre temps. C'est une Alberta qui était beaucoup plus rurale. L'agriculture était plus importante. L'industrie pétrolière a commencé sous son règne à se développer, mais c'était pas si important. Les villes, Edmonton-Calgary, avaient pas pris encore l'importance qu'elles ont aujourd'hui. C'est pourquoi il y a eu ce changement brutal-là au début des années 70, lorsque M. Manning a quitté, qu'un autre chef du crédit social a pris la tête du crédit social, mais qui a été rapidement évincé par Peter Lougheed, précisément parce que la province s'était transformée sur le plan social, était devenue une province beaucoup plus urbaine, donc une nouvelle classe aussi d'affaires qui se sent absolument plus représentée par le crédit social, les idées religieuses aussi. Vous savez, on parle beaucoup de l'importance de la religion en Alberta. C'est vrai que c'est plus important qu'au Québec. Mais en même temps, aujourd'hui, le Parti conservateur, c'est pas un parti conservateur sur le plan social qui va défendre des idées disons qu'on considère rétrogrades contre les homosexuels. C'est vrai que dans certains groupes ou certaines ailes du conservatisme, on retrouve ça. Mais c'est pas ça qui domine sur le plan au plan de la représentation globale albertaine aujourd'hui.
C'est plus du conservatisme fiscal.
Oui, c'est surtout du conservatisme fiscal. D'ailleurs, Mme Smith l'a très clairement dit. Elle attaque le gouvernement au plan fiscal. Elle attaque au plan économique. Et donc, elle veut pas rallier à elle les conservateurs, sociaux, ceux qui voudraient revenir à une définition, là, disons, plus religieuse de la société. Elle, c'est pas sa tasse de thé, si vous me passez l'expression. Elle veut avoir un parti là qui attaque, comme je l'ai dit, le gouvernement là, sur le plan des finances publiques.
C'est ça. J'ai lu à quelque part que Mme Smith se décrivait comme une libertarienne pro-choix.
Oui, effectivement, pour elle, c'est la grande industrie qui doit amener. Sur ce plan-là, elle va même plus loin elle va beaucoup plus loin que les conservateurs. C'est-à-dire, les conservateurs voulaient quand même, même si du Québec, on a l'impression que les conservateurs font strictement rien pour freiner ou l'industrie pétrolière en matière environnementale. C'est vrai qu'ils en font pas beaucoup, mais Mme Smith en ferait encore moins. Elle a même dit qu'elle mettrait fin au programme des conservateurs qui est de favoriser ce qu'on appelle le stockage des gaz à effet de serre dans le sol. C'est très coûteux, on n'est pas convaincu que c'est vraiment une solution économique et qui est viable au plan environnemental, mais Mme Smith, elle, c'est de dire, écoutez, il faut laisser faire l'industrie. L'industrie est capable de s'auto-réguler elle-même et elle va le faire parce qu'il y a un intérêt à le faire sur le plan économique. Mais il faut lui laisser pratiquement carte blanche par rapport à ça. Et donc, d'une certaine façon, Mme Smith fait passer le Parti conservateur pour un peu plus à gauche qu'il ne l'est en réalité. Mm-hmm. Et ça va être intéressant de voir en campagne électorale comment les choses vont se développer entre les deux partis en matière environnementale.
Puis, en terminant, vous avez lancé à l'automne le livre, justement, « Le conservatisme au Québec, retour sur une tradition oubliée ». Parlez-nous un petit peu du livre. Je l'ai feuilleté depuis samedi dernier, puis vous parlez entre autres, dans le fond, nous, on a déjà dit à l'émission là, que on disait que la droite au Québec, ça n'a pas commencé avec la DQ. Là. C'est un peu ça que vous traitez dans le livre. Donc, de quoi vous parlez dans le livre, justement?
Ben, effectivement, comme vous venez de le dire, la droite n'a pas commencé avec l'ADQ. On a l'impression, parfois, dans certains discours qui ont été, disons, véhiculés, notamment lorsqu'on regarde le Québec à partir de l'Alberta, que le Québec s'est tout engagé à gauche à partir des années 60. C'est évident qu'il y a eu une inversion des pôles idéologiques, si on veut, c'est-à-dire que la droite était plus forte, le conservatisme était plus fort avant 1960, et qu'après 60, la gauche, pris le contrôle et qu'il y a eu des nouvelles idées avec le néo-nationalisme. Et ça, c'est pas à remettre en cause. Mais c'est le fait que il y a bel et bien une droite qui était présente avant 1960 et que cette droite-là a continué de perdurer dans l'espace politique au sein de formations, l'Union nationale de Daniel Johnson, au sein des créditistes, au sein même du Parti libéral. Vous avez une aile aussi qui est à droite. Vous avez des conservateurs également qui sont à droite et qui sont au sein du Parti québécois. Mais évidemment, c'est pas les plus voyants. Mais Jacques Brassard, moi, me semblait très symptomatique là, de cette idée-là que il y avait aussi des conservateurs et des gens à droite au sein du Parti québécois. Mais le fait est que le jeu politique à partir des années 60, fin des années 60 et des années 70, au Québec, était déterminé par l'enjeu national. Et donc, on était fédéraliste ou nationaliste souverainiste et on pouvait pas se situer, on se situait pas tant sur un axe gauche-droite que sur cet axe politique. Et ça fait en sorte que les gens qui étaient à droite et qui étaient nationalistes, ben, pouvaient se retrouver davantage au sein du Parti québécois et de la coalition nationaliste. Mais moi, j'ai l'impression que depuis le dernier référendum, donc en 95, l'idéal nationaliste est plus, on voit bien qu'il est plus difficile à réaliser. J'entendais hier M. Lucien Bouchard à la télévision dire que, bon, il reste nationaliste, c'est le rêve qu'il l'a porté, mais en même temps, il voit bien que ça se fera pas demain matin et que c'est pour se faire, ça sera porté probablement par une autre génération. Et donc ça fait en sorte que ça a comme produit une réouverture, disons, du champ politique autour d'un axe gauche-droite. Et l'ADQ en 2007... était celle, disons, qui a incarné, je pense, de manière la plus voyante cette possibilité-là pour un parti d'être à droite. Et ça fait en sorte que, là, aujourd'hui, on le voit encore avec le réseau Liberté Québec, avec le manifeste de Legault cette semaine, que l'axe gauche-droite redevient un peu plus important. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Comment les choses vont évoluer? Est-ce que par la suite, ça, c'est difficile à dire? Il peut toujours arriver, par exemple, que le jeu politique redevienne centré sur la dichotomie nationaliste et fédéraliste. Mais j'avoue que ça, j'ai des doutes. Hein, parce qu'au Canada anglais, je pense que toute cette question-là constitutionnelle, fédéralisme et souverainiste, ça ne dit plus rien au Canada anglais. Moi, je le vois particulièrement en Alberta. Il y a une très, très grande fatigue à cet égard-là. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que le débat n'évoluera pas vers une nouvelle dichotomie nationalisme et fédéraliste. Donc, pour la droite et la gauche, il y a peut-être des beaux jours devant eux.
Ben merci beaucoup, M. Boily.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avez éclairé, je pense, nos auditeurs par rapport... parce qu'on se faisait quelques images par rapport à l'Alberta, mais je pense que vous avez dans certains cas confirmé des images qu'on avait, mais surtout, vous avez bien expliqué tout cet aspect-là lié au conservatisme qui a déjà existé, comme vous avez dit, au Québec. Et d'ailleurs, on invite les gens à se procurer votre livre, là, Le conservatisme au Québec, qui est disponible, là, évidemment, dans toutes les bonnes librairies.
Je l'espère.
Oui. Bonne soirée.
Vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. C'est intéressant. On salue en passant les gens de l'Ouest canadien qui nous écoutent parce que pour eux, il est quand même un peu plus tôt en journée. Donc, c'est le show du retour. Connaître la suite, tu ne savais pas ça. Hein? C'est un show du retour pour l'Ouest canadien.
Il y a des fans en Alberta, beaucoup, hein, d'XM172. On vous salue.
Oui, les camionneurs qui travaillent justement, qui font des bons salaires là, justement à travailler pour des bonnes entreprises là-bas.
Et bonne chance aux Flames qui sont en train aussi de remonter la pente.
Oui, ce soir, c'est notre spécial, Alberta. Ouais, ouais. Et dans le concept, on va avoir de la musique albertaine ce soir.
Toutes des formations qui viennent de l'Alberta.
Ben oui.
Donc, peut-être qu'il y en a que vous ne le saviez même pas, vous allez le savoir.
Ouais, moi, j'ai quelques découvertes, mais la première, ce n'est pas une découverte.
Non, non.
Loverboy avec Turn Me Louise. Non.
Turn Me Louise. Turn Me Louise.
En mauvais québécois, Turn Me Louise. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes, évidemment, à connaître la suite sur les ondes de XM 172. est de retour. Connaître la suite. Hey, c'était très intéressant. Vraiment, là, belle découverte, M. Boily. C'est-tu le fun d'avoir des gens comme ça qui ont des choses à dire intéressantes? Et parlant de gens qui ont des choses intéressantes à dire, on a notre ami Reynald Duberger qui vient de se joindre avec nous. Je l'appelle notre ami, c'est parce qu'on se connaît. Pour les auditeurs de connaître la suite, vous savez peut-être pas, mais moi et Reynald, on a une longue relation. Non, non.
Professionnel.
Non, c'est ça, mais on se connaît depuis un petit bout. Et on a même partagé un bon repas chez Reynald. Donc, je le considère maintenant. Et c'est une chose qu'on a établie un moment donné. Hein, on s'est dit, bon, le tu, le vous. Et c'est ça. Merci de ta présence.
Ça fait plaisir, Steve.
Même sur le décalage horaire, tu sembles encore assez...
18 heures.
18 heures. Donc, Reynald qui arrive de la Nouvelle-Zélande.
Oui. Je suis allé en vacances là-bas.
En vacances?
Oui, c'est un pays qui m'attirait beaucoup. Un géologue, puis c'est un paradis pour les géologues.
Mais en vacances, hein? Tout à l'heure, tu nous as parlé de courriel, de débroussaillage que tu as fait à partir de là-bas. Donc, c'est des vacances, mais en même temps, on reste toujours justement un sismologue et un ingénieur dans l'ombre.
On perd jamais ses affinités professionnelles. J'ai rencontré d'autres ingénieurs là-bas, des professeurs d'université qui étaient en sabbatique, qui se la coulaient douce en Nouvelle-Zélande. J'ai vu qu'une année sabbatique d'un professeur d'université américain ou canadien, en Nouvelle-Zélande ou Australie, c'est pas si dur que ça.
Non?
Non.
Et est-ce qu'on a abusé du bon vin? Parce que là-bas, on...
Non. Ça, je vais t'apprendre quelque chose, Steve. Le vin, même néo-zélandais, est cher là-bas.
Ah oui? Pourtant, j'avais lu sur Internet que le vin était moins cher que l'eau.
Non.
Donc, c'est encore...
C'est un mythe.
C'est des mythes qui circulent.
Il y a des magasins de vin, là, j'en ai fait plusieurs. J'ai pas trouvé une bouteille en bas de 20$ néo-zélandais, là. 20$ néo-zélandais, ça veut dire à peu près 16 ou 17$ canadiens. En fait, vous voulez acheter du vin néo-zélandais, aller à SAQ, vous allez le payer moins cher, mais il n'y en a pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de choix.
Dans le fond, c'est comme si la SAQ vend les vins québécois extrêmement chers, ils vont mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être pareil
peut-être, là, mais j'ai pas fait de bon deal là-bas.
Non.
Ah, OK. Ah. Mais c'était pas le but, et on en parlera un petit peu plus tard, parce que là, d'ailleurs, on vous invite à vous joindre au prochain sujet, parce qu'on l'avait annoncé tout à l'heure en début d'émission. Moi et Denis, on s'est donné des devoirs, appelons ça comme ça, parce que, évidemment, il y a le Réseau Liberté Québec, effectivement, qui va tenir un événement le 16 avril, très important, où il va y avoir, et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, du parti en question, là, le Wild Rose Alliance, donc qui vont... par la personne de Daniel Smith, présent à l'événement du RLQ. Et cette semaine, moi et Danny, on s'est dit, écoute, et le site Internet est quand même bien fait, beaucoup de... On voit que c'est moderne, des vidéos YouTube, des liens, beaucoup d'informations. Et on a trouvé un document qui est disponible. D'ailleurs, si vous écoutez l'émission en direct, on vous invite à aller sur leur site Internet. Vous tapez Wild Rose Alliance, puis vous allez tomber sur leur site. Et à un moment donné, vous allez voir le Policies and Principles. excusez mon anglais. Et là, il y a un beau document. Et là, on l'a feuilleté. On a splitté ça en deux.
Exact.
Hein? Puis là, c'est moi qui commence parce que moi, j'avais la page.
Quelques présentations avant.
Ah oui, c'est vrai.
Pas de problème. Il s'en rappelait plus.
Non, c'est ça. Un show, il a pas
dit. Pas de problème. Non, c'est ça. Premièrement, on voulait parler justement de Daniel Smith un peu.
Oui, hein,
parce qu'il y a une certaine présentation.
Il faudrait mettre ça en contexte, là, effectivement. Exact. Là, je suis en train de sauter une étape.
Donc, la première chose qu'on découvre, premièrement, c'est que l'entrevue précédente, je me suis rendu compte que Wild Rose Alliance, j'ai de la misère à le dire, donc c'est la première découverte.
Ouais.
Ça sortait tout croche tantôt. Mais si on regarde Daniel Smith, justement, c'est qui Daniel Smith? Ben, la personne... Elle est la chef du parti depuis le 17 octobre 2009, donc c'est quand même pas très vieux. C'était l'ex-présidente de la section albertaine de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, donc le FCEI. On entend souvent parler, entre autres, sont très actifs sur Twitter, donc vous pouvez vous abonner à ça. Elle a été aussi columniste au Calgary Herald, animatrice télé à l'émission d'affaires publiques Global Sunday sur le réseau Global, donc qui est une chaîne pan-canadienne. Elle a été un an comme interne à l'Institut Fraser, donc un peu l'équivalent de l'IEDM ici au Québec. Et comme je disais dans l'entrevue précédente, elle se décrit comme une libertarienne pro-choix. Donc, ça permet d'éliminer tous ceux qui voudraient peut-être dire que c'est de la droite morale et tout ça. Donc, en se présentant comme ça, je trouve que c'est un bon moyen là, de faire ça. Et sa conférence, le 16 avril, ça va être « L'autonomie du Québec et de l'Alberta ». Donc, je ne sais pas si ça connaît beaucoup comment notre réalité ici présentement. J'ai hâte de voir là, l'angle de quelqu'un de l'extérieur, là, comment il voit l'autonomie du côté de l'Alberta ou de Daniel Smith en particulier. Donc ça peut être assez intéressant. Autre chose qu'on pourrait dire, c'est que le Wild World Alliance, ça a été fondé par la fusion de deux partis qui existaient déjà. Le Wild Rose Party, qui a été fondé en 2007, mais qui s'est scindé en 2008 justement pour faire la fusion. Donc, c'est pas scindé, mais plus c'est sabordé dans le fond. L'autre, c'était l'Alberta Alliance Party, fondé en 2002. On parle souvent de l'Alliance canadienne avant, hein, qui était... un des deux partis qui a fusionné avec le Parti progressiste conservateur. Donc, c'était un peu un équivalent provincial de ça. Là. Donc, ça avait été fondé en 2002 et ça a été fusionné à l'époque. Et présentement, juste pour terminer, avant de te passer la parole, c'est qu'il y a 4 députés présentement sur 83 sièges qu'il y a dans la province d'Alberta. Et dans 3 des cas, c'est des transfuges du Parti conservateur qui ont décidé de quitter pendant qu'ils étaient élus et qui ont décidé de se joindre à son parti. Et le dernier, lui, avait été élu sous l'enseigne de l'Alberta Alliance avant la fusion. Donc, ça remonte à ça. Donc, 4 députés, c'est une femme et 3 hommes, dont un qui a un nom de consonance française. Je ne sais pas s'il parle français, mais il s'appelle Guy Boutillier. Donc, peut-être. Je ne sais pas s'il a des origines québécoises ou francophones. Son nom sonne francophone. Et ce qu'on va vous présenter, en fond, juste pour expliquer aux gens, là, c'est que sur le site Internet, leur site Internet, il y a différentes propositions qui ont été mises en ligne, sauf que ce qu'on va vous présenter, nous, c'est les propositions qui ont été votées par les membres.
Ouais, qui ont été approuvées.
C'est ça. Donc là, ce n'est pas des suggestions, ça a été voté par les membres du parti.
C'est ça. Et donc, ça se divise en principe et en politique. Donc, pour ce qui est des principes, c'est un peu, on peut qualifier ça de principes directeurs qui sont en fait les leviers ou les fondements même des politiques qu'on va attaquer de façon plus plus détaillée. Au niveau des principes, puis moi, Danny, ce que j'ai fait, j'ai surtout retenu les mots-clés. J'invite les gens à consulter le document parce que c'est très bien écrit, c'est écrit dans un anglais là, qui se lit très bien. Et surtout, c'est les mots-clés que je retiens et qui viennent me rejoindre. On parle beaucoup de responsabilisation au niveau des principes. Donc, pour eux, la responsabilisation individuelle, citoyenne est très importante. On parle d'excellence. On parle souvent dans les documents, vous allez voir, d'éthique professionnelle, d'éthique au niveau des demandes envers le gouvernement. On parle surtout aussi de taxation. Donc, le moins de taxation possible. Donc, ça, c'est dans les principes de base. On dit aussi d'être sensible envers les malades. On parle aussi d'une communauté qui est près des gens. On dit d'être prudent aussi pour les générations à venir. Donc, il y a tout le concept, justement, de bâtir l'avenir. On parle aussi d'égalité. On parle de traitement égal et pas simplement au niveau de la province, mais des provinces en général. Donc, pour eux, c'est très important que la Constitution canadienne traite toutes les provinces de façon égale. Et là, on peut, c'est sûr, penser à la péréquation et plus tard, on va le voir parce que dans les politiques, ils adressent spécifiquement ce point-là, mais pour eux, le traitement, l'égalité est très importante. On parle aussi de droits fondamentaux et immuables. Donc, pour eux, il y a des choses qui sont fondamentaux au niveau des droits. On parle d'égalité, de droit à la vie, de liberté, de sécurité. La sécurité de la personne, pour eux, c'est très important. De liberté de choix, de liberté de religion, d'association, ainsi de suite. Liberté de mouvement, liberté de posséder. Donc, vraiment être libre quand on possède quelque chose. On parle aussi beaucoup des processus démocratiques. Donc, on dit que ces processus-là doivent être démocratiques dans le sens où aussi il y a un équilibre. Les dates des élections sont fixées à l'avance. La législature tient compte aussi du vote. Le pouvoir est donné aux citoyens. Donc, pour eux autres, tout le principe même de la démocratie est très important, doit être respecté. Aussi, au niveau des principes, on retrouve les principes de base au niveau de la gouvernance. On parle de taux de taxation équilibrée qui tiennent compte aussi de balance budgétaire. Donc, pour eux, c'est très important, comme on disait là, un peu plus tôt, que tout ça soit balancé, qu'on n'aille pas vers le déficit. Pour eux autres, c'est inacceptable d'aller vers le déficit. On parle ici aussi de minimiser le rôle de l'État, donc la taille de l'État. Pour eux, c'est très, très, très important dans leur principe de base que ces choses-là soient respectées. On parle de politiciens honnêtes, intègres, et dont l'obligation est de répondre à ses électeurs et non à son parti politique. Très important.
C'est vrai, c'est bon ça.
Donc, c'est écrit comme ça. De surpasser aussi les attentes demandées par les citoyens. On parle aussi d'un gouvernement responsable des gens et qui doit les traiter de façon égale. On parle d'universalité au niveau de l'éducation, de la santé. Donc, comme on l'a dit tantôt, eux croient aussi à l'universalité pour l'accès. Donc, on fait mention de l'accès. On parle de responsabilité environnementale pour les générations futures. Donc, pour eux autres, c'est très important de respecter ça. Pour eux aussi, dans les principes directeurs, l'Alberta doit jouer un rôle au sein de la Constitution canadienne. Donc, pour eux autres, ils doivent être aussi un contributeur. La proximité du gouvernement est très importante. La liberté de presse, aussi, c'est des choses qu'on retrouve. Et tantôt, on en parlait là, de l'heritage, là, comme ils disent en anglais, là, le Alberta heritage. Donc, pour eux autres, c'est très important que le gouvernement constitue justement des fonds comme ça pour prévoir là, des jours un peu plus difficiles. La famille, il termine en disant que la famille est le fondement même de la société. Donc, eux, les valeurs familiales, l'entraide, hein, la collaboration, le support moral, le soutien, pour eux autres, c'est là-dessus qu'on doit construire avant de construire la bureaucratie. Et le dernier, non le moindre, le gouvernement doit fournir un soutien de base à l'individu, mais ne doit pas dépasser son soutien de base. Donc, pour eux, c'est on peut soutenir là, ceux qui sont dans le besoin, mais pour des besoins qu'on va dire essentiels, mais pour le reste, il faut faire attention.
Okay.
Donc, ça, c'est les principes directeurs. Donc, dites-vous que...
Ça a comme bail de l'allure. Là.
Que les politiques sont basées sur ces principes directeurs-là. Mm. C'est sûr que là, on est à très haut niveau. Hein, quand on parle d'humanisme, d'égalité, de liberté, je ne sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs, Rénal, mais c'est des concepts assez de haut niveau. C'est pas avec ça demain qu'on va refaire le monde. Je pense que tout le monde sont d'accord pour l'humanité, l'égalité des gens. Je pense pas qu'il y a personne ce soir qui vont dire « Moi, je suis contre... »
Ça vous rappelle pas des vœux pieux dont on a entendu parler il n'y a pas longtemps? C'est trop beau, c'est très beau tout ça, ce que vous venez d'énumérer là. C'est magnifique, je suis d'accord avec ça. Mais comment?
Comment? Et c'est ça.
Ouais.
Et là, c'est ça, Rénal. Ça m'amène à me dire que moi, la suite logique, ça aurait été de tomber dans le comment.
Ouais.
Quand on tombe dans les politiques, là, on a un peu de comment, mais bon, si je peux faire un commentaire avant même d'en parler, je suis un peu sur mon appétit parce que au niveau des politiques, bon, c'est un peu plus détaillé, mais on est encore loin du comment, là. Où, là, on pourrait donner des exemples. Peut-être des exemples, ça aurait été peut-être un peu plus éloquent. Quand on parle, des politiques, là, ils les ont subdivisés. Donc, on parle de la Constitution de l'Alberta. Pour eux, ce qui est important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la Constitution canadienne respecte, la contribution de l'Alberta et que le traitement... qui est fait par le Canada par rapport à l'Alberta, soit équitable. Équitable de quelle façon? Là, c'est qu'on parle d'un fédéralisme où le fédéralisme défend justement les intérêts des provinces et non l'intérêt du pays ou de la fédération. Donc, le gardien, en fait, de cette confédération-là, c'est le Canada, mais il ne doit pas outrepasser. Et c'est là qu'on retrouve des concepts, justement, d'un gouvernement fédéral qui ne doit pas s'injurer ou s'immiscer dans les juridictions canadiennes. Et ça, je le rattache d'ailleurs à l'événement du 23 octobre, puis d'ailleurs, c'est pas juste le 23 octobre, mais on a notre ami, là j'ai un blanc de mémoire,
Maxime Bernier,
qui en avait fait mention justement. Donc, la Constitution canadienne, elle est là, et les provinces facilement pourraient demander au fédéral de sortir de certaines juridictions parce que ils ont la Constitution. La Confédération, quand elle a été écrite, il y a des pouvoirs, et d'ailleurs, la Constitution, la Confédération, c'est les provinces qui l'ont créée. On pense toujours que c'est Ottawa lui-même qui s'est mis au monde. Et non, c'est les provinces.
Ottawa, c'est le résultat.
Et c'est le résultat, oui.
Ouais.
Mais
On
a tendance à penser aujourd'hui qu'il y a deux pouvoirs au Canada, mais pourtant, c'est les provinces qui l'avaient demandé. Donc, au niveau du fédéralisme, c'est ça qu'on retrouve. On trouve aussi les concepts de libre-échange entre provinces. Pour l'Alberta, c'est très important. Et ça, moi, ça vient m'interpeller. C'est d'enlever toutes les barrières. On parle des barrières au niveau, justement, des certifications professionnelles. Vous avez juste à penser au domaine de la construction. Au Québec, comment c'est difficile pour n'importe qui d'autre dans le Canada de venir travailler au Québec, hein, parce qu'on a mis des structures administratives et on s'est créé nos propres systèmes. Donc, pour eux là-bas, c'est important qu'on devienne une confédération dans le sens où on enlève toutes ces barrières. Donc, c'est sûr que c'est des concepts de droite, parce que là, on parle de libre-échange, on parle de libre-commerce, mais je rejoins encore le discours qu'on a eu la semaine passée. Le commerce international est au sens même de l'économie, ben le commerce interne à un pays. Et là, je pense qu'effectivement, on aurait à accentuer un peu ces politiques-là. Quand on s'attaque à ce bloc-là, le bloc sur le fédéralisme, on dit que l'argent de l'Alberta actuellement alimente les programmes qui n'existent pas en Alberta, donc dans les autres provinces. Donc pour eux,
ça, c'est une de leurs grandes, j'étais pour dire frustration, ouais, là, mais ils ont raison, là, tu sais.
C'est ça. C'est qu'on prend de l'argent des sables, puis eux ne se payent pas ces programmes-là, et au Québec, nous, on se gâte.
Autrement dit, on a des centres de la petite enfance, on a une garderie, on a des programmes sociaux qu'eux n'ont pas, ils ont calculé qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer, que nous payons avec leur argent.
C'est ça.
Je serais un peu frustré à leur place, puis ils ont raison.
Mm-hmm. Ben, ouais, effectivement. Puis ce qu'ils demandent à ce moment-là, c'est un équilibre. Mais là où je suis un peu resté, où ça me percutait un petit peu, ils disent que le gouvernement de l'Alberta devrait regarder à établir des partenariats avec la Colombie-Britannique, l'Ontario et la Saskatchewan pour mettre des pressions sur le gouvernement fédéral pour avoir une réforme au niveau de la péréquation. Okay. Donc, et pourquoi choisir ces quatre provinces et pas d'autres provinces? En tout cas,
comme pour faire un bloc de l'Ouest. Là,
mais tu sais, on vient jusqu'en Ontario, là, c'est quand même... Donc ça, c'est pour le bloc du fédéralisme. Mais là, il y en a encore plus de détails, mais je vous invite à le lire parce que là, sinon, on va passer la soirée là-dessus. Au niveau de la réforme électorale, on parle aussi beaucoup du principe du vote. On dit qu'effectivement, les gens devraient voter, mais pas juste voter pour mettre un parti au pouvoir, mais surtout sur le budget. Donc, on veut là-dedans que chaque budget soit voté. Donc, par la population.
Par la population.
On veut aussi que la population peut en tout temps remplacer des élus. Donc, s'il y a une pétition, et on parle ici de pourcentage, là, on parle de 20%. Si 20% des gens qui sont en désaccord, insatisfaits, ils pourraient remplacer un élu.
Ça, c'est une mesure qu'Éric Kerr a présentée la semaine dernière.
C'est ça.
Exemple,
si on est dans des agglomérations où il y aurait moins de 1000 personnes, là, on parle de 25%. Mais ça, c'est assez concret. Okay. On parle de... ça, c'est des détails. Au niveau du gouvernement, la réforme. Effectivement, on veut mettre en place une agence indépendante pour la création et la gestion, c'est-à-dire la gestion des fonds de pension. Donc, pour eux, ça doit être complètement indépendant du gouvernement. On veut limiter les membres du cabinet à 16. On veut inscrire aussi un code de conduite pour les conflits d'intérêts. Donc, pour eux, c'est très important d'avoir ce code de conduite-là en place. On ne veut pas augmenter non plus les sièges. Donc, c'est très important. On veut aussi définir à l'avance les dates des budgets, les dates de session, de début de session parlementaire, de fin. Donc, pour eux, le calendrier de travail doit être défini à l'avance. Donc, plus de jeux politiques à savoir est-ce que je retiens le budget, est-ce que pour effectivement, des fois, aller chercher de l'électoralisme, on va manipuler un peu. Et ça, c'est un peu pervers parce qu'un gouvernement est là pour gérer et pas là pour, comme on a dit d'entrée de jeu, mettre à l'avant-plan des mesures qui pourraient favoriser son parti au détriment de la population. Gouvernement municipal, donc ça, c'est un autre bloc. Pour eux, c'est très important de donner le pouvoir aux municipalités. Donc,
décentraliser,
que les municipalités qui offrent les services aient l'argent aussi de la province. On parle aussi, un autre bloc où on parle des droits individuels. Donc, pour eux, c'est très important, le droit de propriété, le droit d'exercer sa propriété. Les droits humains aussi, on en parle. Pour eux, c'est très, 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 très important. Là, je tombe dans le bloc économie. Le premier bloc qu'on définit au niveau de l'économie, c'est le bloc sur l'agriculture. Là, on retrouve un paquet de mesures et c'est sûr que l'économie là-bas et l'agriculture peut peut-être différer du Québec. Donc, pour eux, ils veulent éliminer là, tous les impôts directs et les droits de douane sur les intrants agricoles et sur la réduction des coûts des intrants contrôlés par les provinces. Donc, pour eux, c'est très important là, de ne pas avoir ces taxes supplémentaires-là, comme on a dit l'autre fois, là, ou ces quotas-là qui font que le produit ou le prix sur le produit augmente. Pour eux aussi, c'est important que le gouvernement soutienne les programmes de commercialisation des produits de l'Alberta. Donc, que le gouvernement là, soutienne l'industrie, oui, mais pas en imposant des quotas, mais plutôt en soutenant tout l'aspect commercialisation pour libérer un peu, je pourrais dire, libérer ou rendre le marché, l'accès au marché beaucoup plus facile, au moins à l'intérieur de la province, puis ultimement en étant mieux positionné dans le Canada avec le reste des provinces. Donc, il y a aussi des mesures. Là, c'est là où je me dis, bon, il parle de concurrence avec les marchés internationaux par rapport à la viande bovine. Il parle aussi d'investissement et de développement pour la commercialisation du bœuf. Là, c'est sûr que pour moi, j'imagine que là-bas, il doit avoir...
C'est un marché très important. Je pense que c'est genre la 5e ou 6e poste économique, là, je ne sais pas comment je dirais bien ça, là, mais dans les produits, là, il y a le pétrole, le blé, puis il y a le bœuf, très important.
Ben, c'est ça, il y a le bœuf, après ça, on tombe dans le blé. Ils veulent des commissions canadiennes. Donc, ils veulent que le blé soit géré, mais plutôt dans un portefeuille là, canadien. Et là, c'est là qu'on tombe au budget. Au budget, là, c'est très, très, très impressionnant. Et là, ça va rejoindre beaucoup de gens, je pense, qui écoutent l'émission ce soir. Premièrement, on veut mettre en place un programme de budget de base. Et là, on parle vraiment du zéro déficit. On veut donc que tous les programmes, les nouveaux investissements, que ce soit des fonds, des programmes, ça soit vraiment revu à chaque année. Ce qu'on ne fait pas des fois au Québec. Hein. Des fois, on met un programme en place, on le laisse aller, on se rend compte quoi? 5-6 ans plus tard, on a juste à penser aux assistés sociaux cette semaine. 1,5 milliard. Je pense que si on avait réévalué un peu le programme, au moins aux années, on aurait peut-être évité certains déraillements comme ça. Pour eux aussi, c'est comme j'ai dit, tout le processus budgétaire est très important. Et on doit attaquer la dette. Donc, eux autres, c'est très important d'attaquer la dette, de ne pas emprunter, d'investir dans des fonds du patrimoine. On en a parlé tantôt. Donc, pour eux, c'est très, très, très important. Que là aussi, le gouvernement doit limiter la croissance des dépenses. Ça, j'aime ça. Non, mais quand un gouvernement dit « on va arrêter, on va limiter nos dépenses » et non essayer d'augmenter les revenus par les taxes ou les impôts. Donc ça, c'est une attitude qui, moi, me rejoint. Au niveau énergétique, là, je suis toujours dans mes pages ou… non, je défonce pas. Hein?
Non.
Au niveau énergétique, là, c'est là où ça se corse un peu. Ben, je veux dire que ça se corse parce que dans un certain sens… Et là, comment est-ce qu'on pourrait, je pense, en tant que Québécois, comprendre un peu l'envergure, tu sais, des sables là-bas et de la répercussion sur l'économie? On ne le sait pas, hein, tu sais. Puis on a un regard assez critique par rapport à ça, parfois. Puis c'est toujours embêtant de critiquer, encore là, parce que moi, je veux pas non plus, en faisant cette revue-là, critiquer quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais c'est sûr que je vois que pour eux, c'est très, très, très important. Et quand je dis pour eux, c'est le Wild Rose Alliance, que tous les programmes de soutien, que justement le pétrole devienne le moteur économique, non seulement de monsieur, madame, tout le monde par des emplois rémunérateurs, mais qui devienne l'assise économique de l'Alberta dans toute l'accessibilité à ses programmes, à ses infrastructures, à sa normalisation, comment je pourrais dire, de son excellence budgétaire. Donc, on parle, là, ils veulent faire la promotion de l'excellence mondiale énergétique. Et là, regarde, je sais qu'on décrit au Québec, là, on pense que les sables, on va en parler justement après, que c'est très polluant. Mais pour eux, là-dedans, il y a plein de mesures, justement, pour mettre en place le développement des sables bitumineux, de aussi réduire les risques sur... ils veulent contrôler les prix aussi par rapport au pétrole. Je ne sais pas si... Bon, c'est quelque chose qui est envisageable. Est-ce que l'Alberta seul pourrait nationaliser puis faire un peu un Petro-Canada? C'est ce qu'on trouve un peu là-dedans, là, en lisant. Là. Je ne sais pas si tu es arrivé aux mêmes conclusions, Danny, si tu as vu ces choses-là, mais on parle de nationalisation, on parle de mettre en place aussi toute une industrie là, gazière qui est appuyée par le gouvernement. Est-ce que c'est comme ça actuellement? Est-ce que c'est pas le cas? C'est sûr que le regard extérieur nous fait croire que c'est une industrie privée maintenant, mais je pense que le Wild Rose Alliance, ce qu'ils veulent faire, en fin de compte, c'est vraiment pas nationaliser, mais que l'État soit au centre de ce moteur économique-là. Est-ce que c'est à l'État d'aller jusqu'à ce niveau-là? Je me pose la question, je fais un parallèle au Québec avec le gage de schiste. On est en train de vouloir, par Lucien Bouchard, peut-être justement mettre en... Je sais pas, est-ce qu'on va se rendre au Québec jusqu'à nationaliser le gaz de schiste, puis à vouloir que ce soit un projet innovateur et que ce soit un projet qui amène de l'argent dans les coffres de l'État. C'est là que là je me dis, oups, ils disent, tu sais, un peu plus haut dans le document que le gouvernement doit être loin un peu par rapport à son implication. Puis là, je sens par rapport à l'énergie qu'ils veulent, ils veulent que le gouvernement soit plus directeur ou plus impliqué. Je continue au niveau de la responsabilité financière parce que là, j'ai imprimé tout le... Non, c'est vrai, j'ai arrêté. Non, c'est beau, j'ai arrêté.
Comme moi.
Ouais. Au niveau de la responsabilité financière, c'est important aussi que le Wild Rose, pour eux, le fardeau fiscal, c'est très important que ça soit hyper léger. Ils veulent réduire au minimum les impôts. Pour eux, c'est vraiment pas une source de revenus. Donc, c'est pas dans leur vision de dire augmentons le taux d'imposition. Au contraire, ils disent, là, sans le ramener à zéro, je pense qu'il y a moyen de vraiment ramener ça à un équilibre. J'avance un petit peu plus rapidement. Au niveau de travail, il n'y a rien à dire. Régime de pension, j'en ai parlé tout tantôt. Fiscalité, là, on se répète. Donc, garde, Danny, vas-y avec ton bout. Je pense que ça fait le tour.
Oui. OK. Ben moi, à partir de ma partie, on parle d'éducation. Et je veux juste répéter, là, comme au début, là, dire ça, c'est les choses qui ont été votées par les membres. Donc, le programme n'est sûrement pas complet. Là. Donc, peut-être que c'est là que le comment va embarquer. En tout cas, je le souhaite. Là, parce que c'est un peu ce qu'on reproche à bien des programmes politiques. Là, c'est de ne pas rentrer dans le comment vraiment. Là. Donc, j'espère qu'il va y avoir plus, un petit peu plus de viande autour de l'os là, plus tard. Mais en tout cas, ce qui a été voté présentement par les membres pour le programme, entre autres en éducation, écoute, vous allez peut-être vous... Ça va peut-être, s'il y a des gens qui trippent sur le modèle québécois, là, ça serait peut-être le fun qu'ils entendent ça, là, parce qu'ils vont penser que la droite se fout de la culture, se fout des personnes âgées, se fout de l'aide sociale et tout ça. Là. Vous allez voir que c'est pas le cas du tout.
Oui, parce que toi, c'est ton bloc, là. Toi, t'es dans
ouais, c'est ça. Puis vous allez même voir qu'ils parlent d'environnement. Oh my God, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Donc, on parle d'éducation ici. Donc, le premier point dans l'éducation qu'on nomme, c'est de dire que... toutes les phrases commencent par un gouvernement Wild Rose ferait tout ça. Donc ça c'est le fun. Donc on dit que bon verra à ce que les arts, la musique et l'éducation physique soient entièrement financés et encouragera les cours pour développer les habiletés entrepreneuriales dans les écoles publiques. Donc ça serait une maudite bonne idée de ramener l'éducation économique au Québec là. Mais il encourage la musique, les arts. Donc c'est pas des méchants là, qui se foutent de la culture, là, c'est pas vrai. Ensuite, on dit qu'ils veulent améliorer les initiatives éducatives en ligne, là, je le traduis en ligne, là, online pour les élèves. On demande aussi d'avoir des normes élevées, des standards élevés en éducation. Donc, on dit qu'on demande à ce que on mesure la qualité de l'enseignement et les taux de diplomation et que ça soit publié là, pour que ça soit accessible pour tout le monde. Donc, un professeur va être serré, parce que là, j'ai le mot conditionnel. Peut-être que c'est déjà le cas aussi. Tu sais, je parle vraiment du programme du Wild Rose. C'est peut-être déjà le cas en Alberta. Mais la qualité des enseignants et de son enseignement sera évaluée dans un gouvernement Wild Rose. On dit aussi qu'on parle du mot imputabilité, justement, là, dans le système scolaire. Donc, on entend rarement ça ici. Là, on parle d'imputabilité, surtout quand on parle d'un ministre là, qui gaspille des fonds publics. Là, mais ici, on en parle dans l'éducation. L'imputabilité. L'éducation postsecondaire, on dit qu'on veut aider les étudiants de l'Alberta pour l'admission et le financement des institutions. Donc, vraiment, là, on les libère pas. On sait que les frais de scolarité sont plus élevés là-bas que qu'on va à l'université, mais quand même, ils veulent améliorer le financement des universités là-bas. Ensuite, on dit qu'on veut vraiment coller les besoins des employeurs avec la formation offerte. Donc, ça, c'est des vœux qu'on aimerait... des choses qu'on a déjà parlé dans une autre émission là, de ma part. Donc, c'est très important. On veut renforcer le réseau des collèges. Ensuite, soutenir le financement de la recherche et développement dans les collèges et universités. Et favoriser les instituts qui vont faire des partenariats avec le secteur privé. Donc, c'est des choses qu'on a ici quand même. Là. On dit le choix des écoles. Donc, ils disent qu'ils soutiendraient la législation du « school choice ». Donc, c'est peut-être un programme qui existe déjà. Là. Donc, les parents... le financement suivrait l'élève. Tu sais, des fois, on dit là, qu'en santé, le financement pourrait suivre les patients. Mais là, ici, on parle que le financement suit l'élève et non le système scolaire. Donc, ça peut être un moyen intéressantes pour financer l'éducation autrement. Ensuite, on parle d'environnement, comme je vous disais. Ah oui, ben oui, il parle d'environnement, conservation de l'eau potable et tout ça. C'est pas très intéressant, là, mais quand même, là, on y en parle. On parle qu'ils veulent valoriser les parcs provinciaux, tout ça. Ils disent qu'ils veulent exiger, le gouvernement exigerait que les entreprises et le gouvernement respectent les normes environnementales lors de leurs achats. Et on dit qu'il va favoriser la recherche de l'équilibre entre les impacts sur l'environnement et le développement économique. Donc, c'est des belles phrases, là, puis on est tous d'accord avec ça, je pense. Là. Mais là, comment ils vont faire ça? Ça va être là que ça va être intéressant d'y suivre. Ensuite, ils disent les technologies, ils vont aider à l'investissement pour trouver des technologies propres pour l'utilisation du charbon. Donc, c'est une problématique qu'on ne connaît pas vraiment au Québec. Hein. Le charbon est de ce côté-ci. Et bon, après ça, on parle des ressources naturelles et tout ça. Bon, on parle aussi du fameux développement durable, mot à la mode. Et ben, quand c'est bien pris, moi je le vois, oh, oui. Je vois pas ça négatif. Là,
non, développement durable. C'est une invention des biologistes.
C'est ça. Ben, tu sais, bon, des fois, on exagère.
On sait toujours pas ce que ça veut dire.
Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours dit que le développement durable, là, c'est... écoute, un entrepreneur qui, un temps soit peu intelligent, là, il sait très bien que s'il produit, il fait des produits puis qu'il gaspille, il faut faire moins d'argent que s'il gaspille moins. Donc, développement durable, là, un bon entrepreneur n'a pas besoin de se faire dire par Greenpeace que c'est important, mais en tout cas, okay. Ça, faut avoir été dans le business hein, pour des fois plus comprendre ça. On dit qu'ils veulent mettre un ombudsman de l'environnement qui suivrait l'environnement en Alberta. Et qu'un gouvernement et Wild Rose exigeraient des études d'impact pour tous les grands projets là, sur l'environnement. Ensuite, on dit clairement, ça, en tout cas, il faudrait que je vérifie dans des programmes politiques au Québec, l'Alliance Wild Rose, parce que moi je l'ai traduit en français, reconnaît le travail important des chasseurs et des pêcheurs pour la conservation de la faune et cherchera à protéger les droits des chasseurs et des pêcheurs. Nous croyons que le gouvernement provincial doit assurer que la faune de l'Alberta soit gérée de façon compétente.
C'est un peu comme tu
disais. Il remercie les chasseurs.
Oui, c'est comme drôle, tu disais hein? Tantôt par rapport au développement durable. Je pense pas qu'il y ait un chasseur qui va aller saccager son territoire de chasse.
Il y en a, mais la faible minorité.
Non, mais je pense que quelqu'un veut justement quelque chose de durable, puis il va aller à la pêche puis à la chasse tout le restant de sa vie. Fait qu'il il va faire attention exact. À son milieu.
Mais juste vous rappeler ici, puis. Il y avait le président de la Fédération de la faune du Québec qui, il y a 2 ou 3 ans, qui avait été pogné à faire du baraconnage.
Ouais.
Donc, en avion, il amenait des clients. Puis il disait que c'était compatible avec son poste à la Fédération de la faune. C'est bon. C'est très bon. Et un point que j'aime beaucoup, et c'est un peu une flèche qui est envoyée peut-être pour ceux qui aiment faire des spins environnementaux, là, c'est justement, il dit que la gestion de l'environnement doit se faire à partir d'études scientifiques. Okay, donc, de ne pas se faire avoir avec l'impact.
Oh, il paraît tu travailles pour Rénal en Alberta.
Donc, ils disent le gouvernement doit fonder ses décisions sur les meilleures données scientifiques disponibles et ne doivent pas dépenser de l'argent sans avoir d'abord soigneusement enquêté sur les menaces réelles et dans quelle mesure ces actions atténueront ces menaces.
Ouais. Ça, c'est magnifique comme phrase, ouais. Mais c'est pas réaliste. Parce que les décisions qu'on prend dans ce domaine-là, là, je pense au réchauffement climatique, sont basées sur des idéologies beaucoup plus que des données scientifiques. Et c'est malheureux. On a beau nous faire de la science, mais il y a des politiques qui se saisissent de nos résultats, aussi partiels qu'ils soient, en font toute une montagne, puis en font une cause qui devient une idéologie à ce moment-là. Tout le milieu accapare cette idéologie-là, puis prend ses décisions à partir d'une idéologie plutôt que de faits scientifiques.
Ben moi, de la manière dont je lis ça, c'est justement qu'il envoie une pointe à ceux qui le font.
Oui, oui.
Moi, je le vois comme
c'est
ça,
bon.
Là.
Faudrait revenir, donc, quand on prend des décisions en matière environnementale pour un projet de développement économique, faudrait revenir à la base, aux données scientifiques et non pas à l'idéologie. Par l'heure actuelle, nous prenons, au Québec en particulier, des décisions en matière de développement de ressources, je pense au gaz de shale et non pas de schiste, là, je vous corrige, là, qui sont basées sur de l'émotion, sur de l'idéologie, plutôt que sur des données scientifiques réelles et prouvées.
C'est de l'électoralisme encore.
Absolument.
Là, tout simplement.
C'est l'idéologie puis c'est les lobbies qui mènent et non pas la réalité.
Mais j'aime beaucoup justement leur phrase à cause de
j'aime
ça.
J'aime ça, moi, aussi.
Donc, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. S'ils étaient au gouvernement, mais moi, je vois carrément qu'ils visaient carrément ces gens-là.
Ouais.
Parce qu'elle, si on dit que, bon, elle n'est pas. c'est pas une partisane de la théorie du réchauffisme anthropique.
Oui, donc mais... elle doit être sympathique.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je le vois vraiment, là, c'était une pointe là, très, très, très sentie pour viser ces gens-là. Donc, ouais. J'ai trouvé ça bien. C'est pour ça que j'ai pris le temps de bien la traduire en français. Là, je voulais vraiment que vous la connaissiez, celle-là. Ensuite, on tombe dans les soins de santé. Écoute, les soins de santé, c'est pas très compliqué. Comme tu disais tantôt, ils veulent respecter les principes de base de la loi canadienne sur la santé, c'est-à-dire l'administration publique, l'universalité des soins, la transférabilité et l'accessibilité aux soins. Donc, il n'y a pas
Est-ce qu'ils parlent
ils ne sont pas contre le public, dans le fond.
Est-ce qu'ils parlent, non, moi, justement, la privatisation, là, le privé.
Oui, ils n'en parlent pas vraiment.
Ils n'en parlent pas vraiment.
Non, c'est ça. Comme je dis, c'est pas un programme complet. Là, mais...
ouais. Tu me permets-tu une parenthèse de deux secondes? En fait, tantôt, j'ai oublié de le dire, ils parlent souvent de « common sense values ». Au lieu de parler de gauche, droite, tu sais, d'autres, on appelle ça le GBS, le gros bon sens.
Oui, c'est absolument.
Ça. Ils parlent souvent de ça. Donc, c'est pour ça que, tu sais, on a tendance au Québec, évidemment, puis ailleurs dans le monde, à vouloir mettre des étiquettes sur la gauche et la droite, mais c'est vraiment du common sense value.
Mais ici, au Québec, les journalistes disent, dont un blogueur professionnel, qui dit qu'on est des tatas du gros bon sens.
Ah, OK.
Le gros bon sens, c'est contre. Le gros bon sens, c'est pas le consensus des élites. Donc, c'est des tatas du gros bon sens. Et si cette personne est à l'écoute, salut, on s'en parlera sur Twitter.
et on y enverra la cote.
On sait pas qui tu vises, mais on s'imagine.
On s'imagine un blogueur très connu. Ensuite, on dit permettra d'améliorer les couvertures de traitement autorisées hors de la province médicale si les services sont pas accessibles en Alberta. Donc, s'il faut que tu ailles ailleurs, on va te financer pour que tu ailles chercher tes soins. On dit qu'on va aider les gens handicapés à recevoir leurs prestations médicales. On veut créer et financer un poste d'ombudsman pour surveiller le système de santé. Donc, ça a l'air de revenir souvent, là. Les postes d'ombudsman. Pour ça, regarde, je le disais comme fou, puis tu m'as mêlé. Donc, pour la santé, c'est en gros ça. Il y avait pas vraiment de points, là, qui m'avaient vraiment, vraiment frappé en santé. Fait que vu qu'on est un petit peu, le temps avance, on va le laisser tomber. Et un point que j'ai aimé. Le gouvernement Wildrose fournira un relevé annuel des prestations individuelles à chaque résident de l'Alberta pour leur coût de santé. Donc, c'est bon, là. Ça, c'est une vieille idée qu'on a déjà eue au Québec pourquoi on n'enverrait pas la facture?
Moi, quand j'ai été opéré à l'hôpital de Chicoutimi, 2 mois après, j'ai reçu une facture qui était fictive, là, mais on m'a dit carrément sur papier si j'avais eu à payer, combien ça aurait coûté. C'est très bon comme démarche. Parce que les gens, ils pensent que c'est gratos. Ça tombe du ciel, la santé. Pas du tout. On la paye. Puis ça coûte quelque chose.
C'est drôle, hein? Moi, là, j'ai été opéré il y a 2 ans et j'ai dû être hospitalisé 7 jours. Peut-être que le médecin ou, je sais pas, l'administration de voir que l'erreur médicale qu'ils ont faite qui a nécessité ma réhospitalisation lui a coûté tant aussi. Ouais, hein? C'est pas juste bon pour nous autres. Là.
Non, c'est bon pour les médecins aussi.
Exact. Ouais. En tout cas, j'espère qu'ils pourraient peut-être l'envoyer au médecin aussi et dire, regardez, là, ton erreur a fait que ton patient a repassé un autre séjour. Ça pourrait être ça un petit peu. On dit qu'on veut favoriser la formation postsecondaire en santé pour combler les besoins en main-d'œuvre. Donc, toutes des bonnes idées là-dessus. On dit que, en justice, un gouvernement Wildrose. Comment ça, j'ai la misère de dire ça?
Ouais, mais c'est parce que.
La rose sauvage.
appuiera le droit des personnes victimes d'actes criminels à être indemnisées par les personnes condamnées pour le crime. Ça, j'aime ça. Tu voles 100 000 à quelqu'un, ben remets-y donc. Ça ferait même plus mal que de la prison. En tout cas, de la prison est nécessaire, là, mais peut-être tout ça. Et ceux qui, ça serait des crimes, exemple, d'agression sexuelle ou tout ça, ben ils peuvent peut-être accoler une valeur à ça et faire payer le criminel. Donc, payer ses soins si elle a eu besoin d'aide psychologique ou tout ça. Là. Moi, je trouve ça excellent de ce point-là. Donc, en justice, je vois vraiment... Que ça, c'est l'idéal.
Oui, ça, c'est très bon parce que le criminel, il va payer sa dette à la victime, à sa victime, plutôt qu'à la société. Parce qu'il a fait une victime. Ça. La société n'est pas vraiment victime du criminel. C'est la victime qui est victime du criminel.
Exact. Ouais. Exact. Donc, j'aime beaucoup ça. Et on dit qu'on veut trouver des moyens pour favoriser les règlements hors cours, pour éviter qu'ils s'en aillent, justement, dans le système de justice. Oui. Et là, que ce soit l'État
qui paye. Les engagements, ça commence par là.
Exact. Donc, c'est beaucoup
C'est l'argent dans les poches des avocats.
Des avocats, oui, exact. Ouais. On sait qu'il y a le Québec,
c'est une société industrie. D'avocats. Hein. Bon, c'est une industrie, on l'a vu même avec la grève des procureurs. On parle de gros sous, là. Le système judiciaire au Québec, là, c'est une industrie. Je suis convaincu, on ne peut pas la chiffrer parce qu'il y a tellement d'argent qui va dans ce sens-là. Puis ça ça serait dur d'aller voir toutes les, tout ce qui sort des poches là, mais des gens, mais c'est, au niveau de l'État, ça coûte cher.
Exact. On dit en justice encore que les jeunes contrevenants devront participer à des cours de prévention au crime. Donc, on sait que Gilles Duceppe veut pas qu'on amende la loi sur les jeunes contrevenants, mais il faudra au moins leur donner un petit peu de formation et de faire réaliser que ce qu'ils ont fait, c'est tout croche. Là, donc, ça peut être un moyen. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Une phrase qui peut paraître philosophique, mais j'aime quand même. Là. Un gouvernement Wild Rose veillera à ce que les droits des victimes d'actes criminels aient préséance sur les personnes reconnues coupables des crimes. Donc, vraiment, là, ici, là, des fois, ils sortent les menus des gens, là, ce qu'ils mangent en prison présentement. Là, ils sont plus gâtés que la victime. Et ça, c'est un sujet qui... le sénateur Boisvenu, qui parle beaucoup hein, depuis qu'il est devenu sénateur. Ouais. Là, ben,
c'est un homme que j'admire beaucoup.
Ah, oui, très Boisvenu, bon. Ouais. Moi, je ne manque jamais une entrevue que cette personne-là donne. C'est vraiment intéressant. Et du côté social, je pourrais terminer avec ça. Puis peut-être qu'on pourrait passer l'extrait que j'avais sorti, parce que ça parle du social. Donc... là-dedans, on parle d'égalité des droits, des privilèges envers tout le monde. On parle justement des familles. On veut aider les gens qui sont victimes de violence à surmonter les effets de la violence et arrêter, empêcher le cycle de la violence qui puisse continuer pour ces personnes-là. On parle de protection des personnes âgées là-dedans. Donc, on dit qu'il faut valoriser ce que ces gens-là ont apporté à la société, donc en vraiment leur donnant des bons soins. On parle de créer un forum des Premières Nations pour permettre aux citoyens autochtones vivant hors ou dans une réserve ou hors réserve de pouvoir communiquer facilement avec le gouvernement au sujet de leurs priorités et de leurs idées pour améliorer leur qualité de vie. Et la dernière phrase qu'on dit, et c'est ce que vous allez voir dans l'extrait qu'on va vous jouer, qui est le dernier extrait vidéo qui est sur le site du parti, on dit que le parti estime que les services sociaux devraient être fournis par des organismes communautaires plutôt que par le gouvernement à chaque fois que c'est possible. Donc, dans l'extrait, vous allez entendre Daniel Smith expliquer ses principes, justement là-dessus, là, comment que les services communautaires devraient être gérés par le gouvernement.
Et en même temps, ça va être notre petite pause, parce que de l'autre côté, là, on s'entretient sur... Il faut parler des sables quand on parle de l'Alberta. Donc,
on n'a pas le choix.
Renan est ici pour ça, donc on en parle. On se retrouve dans 2 minutes 30.
Exact.
Hi, I'm Danielle Smith. Albertans are always ready to lend a helping hand whenever it's needed. We all know that individuals and families and communities are the first line of defense when something goes wrong. Government can help, but government should be there to play a supporting role. Unfortunately, the government has fallen into the trap of believing that the best way to help those through social assistance is through a centralized bureaucratic program. What that has led to is an increasingly archaic assessment system. We have erratic funding, and we have millions of dollars wasted in unnecessary administration. We think there's a better way. We also think that we should do more to encourage communities to help themselves. We think it's interesting that if you give $100 to a political party, you get $75 back at tax time. But if you give $100 to a charity, you only get $20 or $30 back at tax time. We think this should change. We also think we should encourage individuals to help themselves. Often what happens when individuals on social assistance go out and seek some part-time work, they find that their income and benefits are clawed back. We think these individuals should be encouraged to work, not punished for it. A Wild Rose government would increase help to those on social assistance. We would start off by partnering with those agencies with a proven track record of being able to help those in need and make sure that they receive annual increases to keep up with inflation. We would also make sure that those Albertans who rely on government assistance for support also receive annual increases to keep up with the cost of living. We would allow those on social assistance to earn more before they start getting clawbacks on their income or their benefits. We would also ensure that we increase the amount of the charitable tax credit so that it's far more generous than it is, and also institute a volunteer tax credit so people can get a tax credit for volunteering their time as well as their money. And we would also streamline the assessment procedure to make sure that more money goes to individuals, families, and the community agencies supporting them, and less gets eaten up in government bureaucracy and administration.
We have a lot more ideas for how we would improve social assistance. To learn more about our policy on this and our other policies, go to our website, www.wildrosecaucus.ca.
Très intéressant. Très, très, très intéressant. Allez voir toutes les vidéos en ligne sur le Axl Rose Party. On va y donner ça.
Je voulais juste souligner un point. Là, si vous nous écoutez en podcast, là, reculez le tape là, puis allez réécouter. Mais ce que Danielle Smith dit, elle dit, c'est pas normal que si tu fais un don à un parti politique, sur 100$, tu reçoives 70$ en retour d'impôt, mais que si tu donnes à un organisme communautaire, tu vas recevoir, je pense qu'elle dit 20$.
C'est ça.
Donc, si on peut changer cette façon de voir-là, le privé, nous, individuellement, on va donner à des organismes communautaires au lieu que le gouvernement le fasse, ça peut être un très bon moyen par les crédits d'impôt.
On parle de sable?
Ouais, on parle de sable, mais là...
Bitumineux. On peut dire aussi sable bitumeux, hein?
Bitumeux.
J'ai vérifié en dictionnaire.
Renan, qui est professeur de français à l'occasion, surtout avec le gaz
de shale.
C'est drôle, hein? Moi, c'est que je donnais un comparatif. Là. Ouais. Ça a pris un week-end pour que le monde arrête de dire la grippe porcine, puis c'est devenu la AH1N1 parce qu'il y a eu le lobby des producteurs de porc qui se sont plaints. Ouais. Mais faire changer schiste à shale.
C'est impossible parce que c'est Radio-Canada qui a inventé ça, qui a commis l'erreur, qui a propagé l'erreur, puis dans tous les médias, c'est rendu gaz de schiste. On peut ne rien y faire.
Ça prendrait un lobby de géologues.
Ben, on n'est pas assez nombreux.
Donc là, on voulait parler des sables bitumineux, mais pas dans l'angle qu'on entend habituellement, dire pour contre ou tout ça, mais en tout cas, on va peut-être y toucher à la fin. Là, on verra, mais c'est plus l'aspect géologique, et on pourrait peut-être appeler ça les sables bitumineux 101.
Oui, peut-être.
Un peu, pour en venir à ça, la base.
Il faut parler de pétrole, d'hydrocarbures. Hein?
Exact.
Moi, je ne suis pas spécialiste de l'économie des sables bitumineux, encore moins d'économie de l'Alberta, mais je sais comment le pétrole, ça se forme. Hein? J'ai enseigné à l'Université du Québec à Chicoutimi en géophysique, puis un des volets que j'enseignais à mes étudiants, c'est comment trouver du pétrole, l'exploration pétrolière. Donc, je connais ça. Mm-hmm. Les sables bitumineux, c'est à peu près des formations géologiques, à peu près le même âge que les gisements de pétrole qu'on trouve ailleurs dans le monde. C'est d'âge crétacé qu'on appelle.
Oh,
ça veut dire ça c'est
le crétacé. Si on chiffre,
c'est à peu près 165 millions à 65 millions d'années à peu près.
Hein? OK.
Les dinosaures, pour vous donner une idée, un repère, là, ils sont éteints à la fin du crétacé, il y a 65 millions d'années. Des sables bitumineux, il n'y en a pas juste au Canada. Il y en a dans pas mal de pays. Le Canada, c'est le principal dépositaire des sables bitumineux. Il y en a aussi en Russie, il y en a dans les Caraïbes, il y en a aussi au Venezuela.
C'est-tu le fait qu'on est plus au nord?
Non, pas du tout.
Pas de lien.
C'est une condition géologique qui a... Il faut voir qu'au Crétacé, en Alberta, c'était tropical. Hein, il faisait chaud... Québec a déjà été aussi tropical. Hein? La Nouvelle-Écosse, s'il y a du charbon en Nouvelle-Écosse, c'est parce qu'il y a eu un climat tropical là à un moment donné. Donc, ce sont des sables qui sont formés dans des environnements géologiques d'estuaires, de dépôts de rivières, dont le plus gros, c'est ce qu'on appelle le bassin de l'Athabasca. Hein? On parle d'à peu près, en superficie, là, 140 000 km². C'est grand comme superficie de sable bitumineux. Ce qui fait que les sables bitumineux de l'Alberta, dont le bassin de l'Athabasca, ça représente la deuxième réserve de pétrole en importance au monde après les réserves d'Arabie Saoudite qui sont les premiers. C'est pas négligeable. C'est énorme. Sauf que c'est pas du pétrole, c'est des sables bitumineux, comme le mot le dit, c'est des sables qui contiennent du bitume. Le bitume, c'est ce qu'on appelait quand j'étais jeune du caltor. Hein?
Ouais.
Du goudron. Et à température ordinaire, c'est solide, ça. C'est pas exploitable directement comme ça. Okay. Sauf que les Indiens, les Amérindiens, exploitaient ce sable bitumineux-là, le chauffaient, faisaient fondre, sortaient le bitume qu'il y avait là-dedans, puis ça servait de calfatage pour leurs canaux, entre les morceaux d'écorce, là.
Ah oui?
Puis c'est pas d'hier, en France, en Alsace, on a exploité au 18e siècle des sables bitumineux. on mettait de l'eau chaude dessus, puis on réussissait à ressortir de l'huile visqueuse qui servait à alimenter les lampes pour éclairer. Okay. Mais la technologie pour exploiter ces sables-là est relativement récente, ça date des années 30 à peu près. Et c'est là qu'on a développé les premières technologies qui combinaient de la vapeur, de l'eau et des sables bitumineux qu'on mettait dans des gros tonneaux qui tournaient, là. Et puis on réussissait à extraire.
Et l'eau sert d'abrasif à ça?
Non. L'eau chaude et la vapeur sert à rendre fluide le goudron.
Le goudron.
Donc, okay. Ce qu'on extrait, c'est du goudron. C'est du bitume. Mais ce bitume-là, il est encore assez visqueux. On peut pas l'exploiter. On peut pas l'exporter.
Il est dur à manipuler.
Il est très visqueux. On peut pas le mettre dans un pipeline ou le faire circuler facilement. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui fait que la technologie pour l'exploiter est très coûteuse. Coûteuse du point de vue investissement, coûteuse aussi du point de vue environnement. Parce que ça prend de l'eau, ça prend de l'énergie pour sortir ce pétrole-là du bitume.
D'où l'impact qu'il y a eu sur l'Alberta quand le baril a chuté et là, c'est devenu moins lucratif.
L'Alberta est à la merci du prix du pétrole. Et vous voyez que le prix à la pompe a augmenté parce que le prix du baril a augmenté. Donc, quand le prix du baril de pétrole monte, ça, c'est on n'y peut rien, c'est l'OPEP, c'est les gens qui décident du prix du baril de pétrole, ben, l'économie de l'Alberta est florissante. Et si l'économie de l'Alberta est florissante, on peut se payer des garderies à 7 piastres au Québec. Ça, faut pas l'oublier. Donc, chaque fois que vous allez faire le plein, là, puis que vous allez piétiner pour regarder 1,26 le litre, pensez que plus ça va monter, plus moins cher les garderies vont coûter au Québec.
Ouais, c'est ça. Je vais faire un lien avec ce que vous venez de dire, justement. Là, j'avais coupé ça parce qu'on manquait de temps. Mais un des communiqués de presse que Daniel Smith a lancé cette semaine, on dit justement, là, on parle du déficit en Alberta, parce que justement, là, le budget a été lancé cette semaine en Alberta, et elle parle que pour chaque 1$ qui monte, le prix du baril monte, ça donne au gouvernement albertain 141 millions de dollars. OK? Et ils disent « to balance the budget ». Donc, pour balancer le budget de la manière que… Parce que là, ils ont présenté un budget déficitaire. Il faudrait que le baril atteigne 133 dollars d'ici 2011-2012 pour balancer le budget albertain. Donc, il y a peut-être encore un espoir de ce côté-là.
Si ça, c'est intéressant comme gestion de budget. Il s'agit de… Vous voyez, si le Québec avait une richesse naturelle qu'il pouvait exploiter de façon stable, que ce soit du gaz de shale ou du pétrole, on pourrait raisonner avec de la même façon que les Albertains.
Exact.
Puis calculer les programmes sociaux qu'on pourrait se payer en fonction du pétrole ou du gaz qu'on peut sortir.
Exact.
Mais on est tellement niaiseux. J'écoutais notre cher premier ministre, M. Charest, dire dans son discours inaugural que nous, comme priorité, c'est la maîtrise de nos ressources. Toutes les autres provinces exploitent leurs ressources. Nous, on les maîtrise avec le BAP puis des moratoires. Bravo, Monsieur le Premier ministre.
Ouais, on maîtrise plus le message que la ressource.
J'adore.
Ouais, c'est vraiment ça. Juste pour compléter, là, justement, il disait ils ont une autre façon originale de montrer que le gouvernement albertain est en déficit. Ils mettent par personne. Parce que là, ce qu'ils se sont rendu compte, le parti de Daniel Smith, c'est que l'Alberta aussi fait de la comptabilité créative pour montrer. Donc, la manière que le Parti conservateur avait donné les chiffres, ça donnait un déficit de 912 $ par personne ou de 3647 $ par famille de quatre. Donc, de le présenter par personne et par famille, c'est bon. Mais finalement, les vrais chiffres, là, parce qu'il y avait sorti certaines affaires, entre autres les frais d'infrastructure, au lieu d'être 912 par personne, c'est 1644 $ la dette, là, le déficit. Donc, là-bas aussi, ils font de la comptabilité créative. Mais de le montrer que par baril de pétrole, par dollar d'augmentation, là, c'est vraiment original là, là-dessus. Là.
Ouais. Donc là, on disait que c'est sûr que c'est coûteux. C'est coûteux à exploiter parce que le procédé est coûteux.
C'est sûr. Il faut calculer dans l'exploitation des sables bitumineux le profit qu'on va rapporter du baril qu'on va sortir, mais il faut soustraire de ça les coûts énergétiques qu'on va investir pour extraire ce pétrole-là. Parce que ça prend de l'énergie, en général qui est fournie par du gaz naturel, et ça prend de l'eau aussi. Pour environ un baril de bitume, il faut calculer 28 mètres cubes de gaz naturel, si vous voulez 1000 pieds cubes de gaz naturel, plus à peu près 3 à 4 barils d'eau cette eau-là, elle sortira pas pure, là. Il va falloir, si on veut la retraiter, il va falloir, c'est des coûts additionnels pour la purifier. Donc, c'est pas du pétrole comme on sort en okay. Arabie Saoudite où on fait un trou puis le pétrole sort puis on a juste à le raffiner. Là, il y a tout un procédé d'extraction qui est très coûteux et qui est environnementalement aussi coûteux. Mais là, il faut faire aussi, je suis bien aimé dans le programme de l'Alliance Wild Rose, une balance entre les coûts environnementaux puis les profits économiques. On n'entend pas ça souvent au Québec.
Non, moi, ça, tire d'un bord, mais pas
dans tous les projets à connotation économique au Québec, que ce soit du chez, j'entendais, moi, le club des, comment ça s'appelle,
des ex
à Radio-Canada dire oui au gaz de schiste, mais pas à n'importe quel prix. Mais quand est-ce que vous entendez oui à l'environnement, mais pas à n'importe quel prix? Avez-vous entendu ça quelque part à Radio-Canada?
Non.
Vous entendez juste des oui à ci puis à ça, des gros méchants économistes là qui exploitent des affaires, mais pas à n'importe quel prix. Donc, prix environnementaux. Mmh. J'ai parlé à des jeunes ce matin en école secondaire. Puis j'ai parlé aussi hier des changements climatiques ici à Charlebourg au secondaire. Je leur ai dit oui à l'environnement, mais pas n'importe quel prix. Vous êtes plus important qu'un ours polaire. Vous n'entendez pas ça souvent à la radio.
Mais là, Rénal, fais attention, là. Tu vas te faire barrer.
Oui, je sais. Je risque des poursuites. Je risque des mises en demeure.
Là, les poursuites, là, les mises en demeure. Oui.
Je suis devenu violent et menaçant contre la flore et la faune. Hein? C'est grave, ça.
Mais là, c'est parce que tu as pris une tangente au Québec qui n'est pas naturelle, là. Dénoncer, là, justement. Le climat de peur qu'on veut instaurer au Québec par rapport au climat, au réchauffement climatique, à l'environnement.
Oui, les gaz à effet de serre.
Ouais. Mais justement, dans le procédé, là, parce que tout à l'heure, avec notre premier invité, il parlait des gaz, puis ainsi de suite. Est-ce que le procédé…
Génère des gaz à effet de serre, c'est sûr. Même dans la transformation, on génère du méthane, du CH4, et qui est un gaz à effet de serre très efficace. En abondance, le gaz à effet de serre le plus efficace, c'est la vapeur d'eau, mais c'est en abondance. Mais le deuxième, après, c'est le CO2, puis le troisième, c'est le CH4. Mais au point de vue efficacité d'effet de serre, c'est le méthane, le CH4, qui est le plus efficace. Puis, j'arrive de Nouvelle-Zélande, j'ai parlé à des gens là-bas. Les biologistes là-bas, ou les chercheurs en biologie, sont en train de développer des variétés d'herbes de fourrage pour donner à leurs bœufs et à leurs moutons, parce qu'il y a 40 millions de moutons pour 4 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande, qui vont générer des pets moins riches en CH4. Donc, les moutons vont péter écologiquement. Ça va être bon pour les gaz à effet. Ça va diminuer les gaz à effet de serre. C'est pas beau, ça. Hein?
Mais c'est ça. Dans les notes que je consultais, là, on disait que les sables bitumineux comptaient pour 5 % des gaz à effet de serre au Canada, mais alors que l'agriculture, c'était 9 %
Oui. Et l'agriculture, pas seulement ça, pollue aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on rejette au point de vue purin dans la nature, dans nos rivières et tout ça, faut calculer ça. Puis en parlant de gaz à effet de serre, rappelez-vous le sommet de Copenhague où notre cher premier ministre, M. Charest, est allé taper sur la tête des Albertains en les accusant d'être des atroces pollueurs et générateurs de gaz à effet de serre. Il rentre au Québec, puis là, il ramasse ses hommes d'affaires, puis leur dit « Allez en mission en Alberta pour faire affaire avec les gens qui exploitent les sables bitumineux pour voir ce que vous pouvez faire avec eux autres. » Il parlait des deux côtés de la bouche.
Oui, je pense que j'ai lu 15 000 emplois québécois qui sont liés aux sables bitumineux. Albertains.
Ben oui, sûrement.
Tantôt, vous disiez qu'il n'y en a pas juste au Canada, on s'en doutait de cette partie-là, mais entre autres, c'est où qu'on peut en trouver ailleurs? Puis, y a-tu un phénomène géologique pareil là, qui fait qu'il y a eu des sables bitumineux ici
et qu'il y en a ailleurs? C'est toujours le même phénomène? C'est des conditions, je dirais, géo-écologiques, là. Géo-environnementales qui ont prévalu à une époque géologique donnée, qui ont créé des estuaires de rivières dans lesquels ces sables-là sont déposés avec de la matière organique, puis ça a donné ça. C'est pas la majorité du pétrole qui est issu des sables bitumineux, hein. C'est une faible partie, mais les réserves sont là quand même. Quand on aura fini d'exploiter le pétrole facile à sortir, qu'il soit au Venezuela, ou en Arabie Saoudite ou en Iran, il va falloir exploiter nos ressources de sables bitumineux. Et là, on en a pour pas mal d'années. Okay. Donc, il faut pas paniquer. Cela dit, ça nous empêche pas d'essayer de trouver des solutions parallèles, alternatives à nos problèmes énergétiques. Hein? Par exemple, il faut pas négliger. J'arrive de Nouvelle-Zélande. Vous savez que la majorité de les deux tiers de l'énergie Nouvelle-Zélande, c'est de l'énergie géothermique. Ils sont les champions du monde avec l'Islande là-dedans. Okay. Hein, ils chauffent leur maison avec ça, ils font de l'électricité avec ça. Et l'autre tiers, c'est de l'hydroélectricité. Il n'y a aucune centrale nucléaire en Nouvelle-Zélande. Okay. Donc, du point de vue écologique, je pense que la Nouvelle-Zélande peut donner des leçons à pas mal de monde.
Trouver des solutions originales,
oui,
qui sont connues.
Et environnementales, puis qui sont saines pour l'environnement puis pour les gens.
Puis c'est quoi la différence entre justement là, que ça forme un sable bitumineux versus un pétrole qui est pompable?
Ah ben ça,
c'est quoi les différences géologiques?
En gros, là, ouais, pour faire du pétrole, ça prend un milieu, disons, marécageux, une espèce de swamp. Là. Vous avez de la matière organique en décomposition. Il faut enfouir cette matière organique-là en grande profondeur, la porter à des pressions et des températures assez hautes pour activer la pétrogenèse, la genèse d'hydrocarbures. Il faut ensuite des conditions géologiques qui vont fournir un réservoir à ce pétrole-là, des roches poreuses, par exemple, des sables, des grès. Il faut des roches couvertures qui vont empêcher le pétrole de s'échapper à l'extérieur, donc pour capter ce pétrole-là.
Former un réservoir.
C'est ça. Donc, les conditions de formation d'un gisement de pétrole sont assez strictes, assez sévères et relativement rares. Ça peut, par exemple, être un récif de corail, un vieux récif de corail qui date de millions d'années. Ça peut être un sable enfoui, un ancien environnement de rivière ou de désert. Mais les sables bitumineux, ben, c'est qu'il y a des conditions assez superficielles. Contrairement au pétrole, où il faut forer des kilomètres en profondeur dans la croûte terrestre pour aller chercher, les sables bitumineux sont en faible profondeur. Il y a même des sables bitumineux qui affleurent, qui sont en surface.
Okay.
Hein? Et ceux-là, on peut les exploiter à la manière d'une exploitation minière. Il s'agit d'enlever... Okay. D'abord, la forêt qui les recouvre, là, c'est une grosse agression écologique parce qu'on élimine beaucoup de bois. Il faut enlever le mort-terrain, puis ensuite, on pige directement dans ce sable-là qu'on va traiter. Okay. Mais pour ce qui est plus profond, mettons que 50 à 100 mètres, là, il faut une autre technique qu'on utilise à vapeur. On fait des forages, on injecte de la vapeur à haute température, mettons 300 degrés Celsius, à haute pression. On laisse cette vapeur-là agir pendant un certain temps. Ça peut prendre des mois. Parfois, ça dépend des conditions locales. Et là, le goudron, le bitume qui est dans le sable va se liquéfier. Okay. Puis on a juste à le pomper puis le faire remonter en surface. Ça, c'est une des techniques. Okay. Une autre technique utilise des forages horizontaux, des trous horizontaux. Okay. On envoie la vapeur dans un trou, puis dans le trou en dessous, on va collecter le bitume qui va fondre.
Ah, OK.
Ouais. Tout simplement. Mais ça coûte cher, ces choses-là. Ouais. Ça prend de l'eau, ça prend du gaz pour chauffer cette eau-là. Donc, c'est pas gratos, là. Il y a des coûts environnementaux et des coûts d'investissement qui ne sont pas présents dans une exploitation pétrolière normale.
Je vais être obligé de t'arrêter, Rénald.
Mais pour quelques secondes.
Et là, on invite d'ailleurs tous ceux qui vont rater les prochaines 30 minutes parce que je t'annonce, on va prolonger l'émission parce qu'on peut pas arrêter ça là.
Non.
Mais là, à cause des contraintes pour la radio satellite, on va stopper ça là. Mais venez au www.connaitrelasuite.com. Donc, c'est très important, connaitrelasuite.com pour entendre le prochain 30 minutes parce que là, on va faire des frustrés dans le camion, dans les autos, tous ceux qui nous écoutent. On doit mettre fin à l'émission, mais...
Sur satellite seulement, on arrête.
Mais on continue sur Internet. Et pour ceux qui ont manqué la 30 minutes, ben venez sur notre site. Demain matin, le podcast va être disponible avec le prochain 30 minutes. Salut tout le monde!
Salut!
Rénald, tu restes là, on se retrouve dans à peu près 30 secondes. Ben, mauvaise planification ce soir.
Non, mais...
mais c'était pas les budgets de l'État.
C'était pas Radio-Canada.
Non, c'est ça, ouais. On peut se le permettre.
Mais si on prolonge l'émission, c'est pas parce que c'est plate.
Non, c'est ça.
C'est trop intéressant.
Hey, ouais. Mais non, mais sérieusement, ceux qui sont sur Internet, là, sont super contents. Et ben, je salue ceux qui ont...
switché en bon français.
Ben non, mais surtout ceux qui ont perdu le 30 minutes puis peut-être qu'ils viennent de le récupérer. On sait pas, c'est peut-être un lundi soir, un mercredi soir,
ouais,
pour
c'est
eux.
Ça,
mais puis en fin de compte, vont pouvoir combler la frustration qu'ils ont sentie le vendredi à 22h. Quand je leur ai dit, c'est terminé.
Mm. Non, on rappelle au monde que c'est notre spécial Alberta, donc Nickelback vient de l'Alberta.
Oui. Ce soir, on termine sur ta découverte tout à l'heure. Là,
ouais. Tegan and Sarah.
Tegan and Sarah. Ouais. Oui, spécial Alberta.
On continue.
Oui, puis là,
les sortes bitumineux.
C'est aussi intéressant entre les pauses qu'en émission. Hein, parce que, maintenant, il y a plein d'opinions sur à peu près tout.
Mm. Non, pas tout.
Non? Qu'est-ce que t'aimes pas?
Jean Charest.
On discute pas.
Mais c'est déjà une opinion.
On va continuer avec nos questions géologiques, parce qu'on a un géologue. C'est quoi votre titre, donc, géologue?
Ingénieur? Géophysicien. Ingénieur géologue, sismologue. Quoique le puis à retraite, j'ai perdu quelques mologues. Je peux être rendu à 4-5 mologues.
Et chroniqueur radio.
Chroniqueur radio,
ouais,
bénévole.
Directeur
de la Société d'art et d'histoire de Beauport, de la Fondation commémorative du génie canadien. Et aussi de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Et propriétaire de votre domaine, comment est-ce qu'on l'appelle?
Grand Bigard.
Le Grand Bigard.
Le Grand Bigard. Ouais.
Oh, oui, le Grand Bigard. Oui. Il y a toute une histoire. Ça, je pense, d'après moi, on fait 2 heures là-dessus. Bon. Parce que quand on va chez Rénal, j'ouvre une petite parenthèse, mais quand on va chez Rénal, il se fait un plaisir de mettre ses drapeaux sur sa... une corde à linge.
Oui.
C'est ça.
J'ai fait 2 fois.
Ah oui?
Quand vous êtes venu, puis quand j'ai fait une garden party.
Oui.
Parce que les gens passent devant la rivière.
La rivière, c'est ça. Hein?
Donc, les gens le voient, vos drapeaux.
C'est ça, ouais.
Ouais, très intéressant.
Continue avec tes questions,
Danny. Oui, je continue.
Parce que c'est
questions
Danny, bizarre. Là, ça fait longtemps qu'il veut...
J'ai contacté M. Dubergin au mois d'août
pour faire
propre émission que j'avais.
Ça me chicotait un peu que tu m'appelles pour ça. Là.
Parce que je voulais, c'est ça, j'essaie de faire différent dans les questions un peu. Puis c'est l'aspect géologique, justement, que je veux qu'on développe de ce côté-là. Tantôt, vous disiez que vous aviez montré à vos étudiants
l'exploration.
L'exploration ou la découverte?
Les techniques d'exploration pétrolière.
Donc, comment
et gazière.
On se promène pas sur un terrain et on dit il y a peut-être du sable bitumineux.
Il y a différents. D'abord, il faut regarder la géologie. Il faut regarder les conditions géologiques de la région. il faut voir s'il y a eu, à une époque donnée, des conditions favorables à la mise en place de ces gisements-là. Et c'est la même chose pour l'exploration minière. Mm-hmm. Hein, on ne trouve pas de l'or partout. Il y a de l'or alluvionnaire. Hein. Il y en a, j'en ai vu en Nouvelle-Zélande, des pépites d'or dans les rivières. Mais il y a de l'or en place, hein, dans des conditions géologiques. En Abitibi, par exemple, on sait qu'il y a eu du volcanisme il y a des centaines de millions d'années. Sous-marins qui ont apporté des liquides dans la croûte terrestre qui ont déposé de l'or. Bon, nous, on forme des géologues pour reconnaître ces conditions géologiques-là et en faire l'exploration et ensuite l'exploitation. Pour le pétrole, c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus récent que nos ressources minérales au point de vue mise en place. Hein? Okay. Bon, donc, l'exploration pétrolière, d'abord, commence par des observations géologiques. On essaie de trouver des environnements géologiques qui ont été probablement favorables à la mise en place de gisements. Ensuite, on utilise des techniques d'exploration qui sont, de mon domaine à moi, de la géophysique. On va utiliser, par exemple, des méthodes gravimétriques. On va mesurer la pesanteur. J'ai fait ça en Gaspésie dans les années 70 pour le compte de la compagnie Sukip, qui avait formé un consortium avec une autre compagnie, pour essayer de voir s'il n'y avait pas possiblement du pétrole dans l'anticlinal de Gaspé, qui est une formation en forme de dôme, là, pour voir s'il n'y avait pas des conditions stratigraphiques qui auraient pu constituer un éventuel réservoir de pétrole. Mais le gros de l'exploration se fait par des méthodes sismiques.
Oui, parce que là, c'était ma question. Comment est-ce que vous avez pas des cartes là qui datent là?
Non.
Il faut pas creuser.
Il y a plusieurs années, des décennies, on utilisait des méthodes sismiques basées sur avec des explosifs.
Oui, c'est ça, du dynamitage.
On faisait sauter des charges de dynamite. C'est pas tellement sécuritaire. C'est pas tellement aussi environnementalement correct.
C'est les histoires qu'on a entendues là, de roches qui revolent partout dans le village.
Moi-même, j'ai déjà fait des sondages pour étudier la croûte terrestre sur des grandes distances. Je me rappelle dans les années 80, les abus des années 80, on avait un grand projet qui monopolisait, qui mobilisait plusieurs universités canadiennes, dont mon université. Et j'étais responsable d'un tiers des tirs, mais j'ai fait sauter des tirs de 6 à 7 000 livres d'explosifs d'un seul coup, là, pour sonder la croûte terrestre jusqu'en profondeur, à 30-40 kilomètres. Des affaires épouvantables. On ferait plus ça aujourd'hui. D'ailleurs, on a tué des poissons, on a fait ça dans des fonds de lac. Écologiquement,
pas des
coupable d'avoir
pas tué... Pas une autre mise en demeure.
Je sais pas combien de tweets. C'était pas tellement écologique, mon affaire. Mais aujourd'hui, on utilise des méthodes beaucoup plus écologiquement douces. Là, on utilise une technique qu'on appelle le vibro-CIS. Il y a des camions, des gros camions avec des vérins hydrauliques et des grosses plaques. On jack le camion sur sa plaque. Puis là, vous avez 6 ou 7 camions qui vont injecter une vibration, une espèce de sweep. Là, il va faire...
Une onde
dont la fréquence va varier. Ils vont toutes vibrer en même temps puis en cadence. Et cette onde-là va pénétrer dans le sol, va être réfléchie sur les différentes couches qui constituent le sol jusqu'à plusieurs kilomètres de profond. Puis chaque côté de cette batterie de camion, il y a des centaines de senseurs qu'on appelle des géophones qui sont plantés dans le sol, qui vont capter les ondes réfléchies à partir des couches profondes de la Terre.
Mais là, c'est des calculs, j'imagine.
C'est des calculs qui sont faits par ordinateur avec des logiciels que moi, j'ai enseigné à mes étudiants qui vont nous permettre de déterminer la structure, la stratigraphie qu'il y a en dessous du sol. Puis on peut voir s'il y a des structures qui sont favorables à la mise en, l'existence de nappes de pétrole. Puis dans certains cas, on peut même voir le pétrole lui-même.
Ah oui, c'est ça. On peut voir des lacs, des choses très souterraines.
On voit parfois de l'eau salée parce que souvent au-dessus de la couche de pétrole, il y a une couche d'eau salée. Il y a du sel souvent relié.
Donc ça fait une cartographie quasiment en 3 dimensions.
Ça fait une coupe du sous-sol où on peut voir les différentes couches, les failles, s'il y a des failles, parce que il y a plusieurs types de pièges à pétrole, hein, qui peuvent capter le pétrole. Il y a des pièges stratigraphiques, il y a des pièges structuraux, il y a des anticlinaux, il y a des failles, hein, des discordances géologiques qui peuvent constituer des pièges. Alors, ce que le géologue de pétrole va faire, c'est d'essayer de trouver ces structures-là. Puis après qu'on a raisonnablement identifié la présence de structures favorables à la présence de pétrole, là, on peut faire des forages d'exploration pour voir s'il y a du pétrole. Mais c'est très, très coûteux.
Donc, il faut, si on veut faire des délits d'initié, il faudrait se mettre ami avec des gens de votre profession.
Oui. Mais il y a beaucoup plus d'argent investi dans le pétrole que dans l'exploration minière. c'est des gros sous.
Ouais.
Hein, c'est des millions, des millions, des millions.
Puis quand vous installez vos camions là, qui font de la vibration, tout ça, là, vous dites, combien vous avez dit de profondeur, vous pouvez y analyser?
On peut descendre à quelques kilomètres de profondeur.
Et côté rayon?
Ah, on a une influence. Quoi, en fait, ces camions-là, ils avancent ensemble, là. Ça dépend des conditions.
Ils sont pas immobiles, là. Ils font leurs choses en avance.
Ils avancent, ils vont vibrer, ils vont arrêter, ils vont avancer de quelques mètres, ils vont recommencer à vibrer. On fait toute une cartographie d'une région, là, en trois dimensions, de la structure qu'il y a en dessous du sol. C'est sûr que si le terrain est accidenté, puis il y a des ravins, des montagnes, on peut pas utiliser cette technique-là.
C'est ça, parce qu'il n'y a pas des routes partout, là.
Non, il n'y a pas des routes partout. On peut les faire marcher en tandem, on peut les faire marcher en parallèle. Hein, il y a toutes sortes de techniques d'exploration. Il y a énormément d'argent qui a été investi en exploration pétrolière puis en développement de techniques d'exploration, beaucoup plus que dans d'autres domaines d'exploration.
Puis vous pouvez analyser combien de, mettons, en surface? Là,
on peut faire on peut avoir une ligne d'un kilomètre.
Ça va analyser un kilomètre.
Oui, absolument.
Facilement. Mais là, vu qu'il n'y a pas des routes...
Puis on fait aussi les mêmes relevés en mer. Les océans, dans le golfe du Saint-Laurent, dans l'estuaire de Saint-Laurent. C'est un de mes élèves qui est un spécialiste de ça. Je ne sais pas s'il est à l'écoute à l'heure actuelle.
On le salue.
Mais il a fait son doctorat à l'INRS, ici à Québec. Il est le spécialiste d'exploration pétrolière au Québec, en l'estuaire de Saint-Laurent. Et on fait ça par bateau. On traîne au lieu des géophones, on a des hydrophones qui flottent à la surface de l'eau. Comme source d'énergie, on utilise souvent un fusil à comprimé qui envoie une grosse bulle d'air spontanément dans l'eau. Là. Puis les écologistes n'aiment pas ça. Ils pensent savoir rendre des baleines sourdes. Il y a déjà eu un reportage à Charles Tissère qui est en train d'assourdir toutes les baleines du golfe Saint-Laurent par l'exploration pétrolière. Oui. Vous imaginez?
Oui. Mais il essayait d'expliquer que certaines baleines pouvaient... Ça pouvait être la raison pour expliquer pourquoi certaines baleines
vont échouer.
Oui. Oui, parce qu'il était assourdi par les relevés sismiques marins pour l'exploration pétrolière. Mais je vais vous dire une chose, Pêche et Océan Canada, ils ont fait une étude. Puis derrière le bateau sismique, il y avait un autre bateau avec une espèce de chalut, pour ramasser les poissons éventuellement morts suite à l'explosion. Ils n'en ont pas ramassé un maudit, non.
Il cherchait.
Non, il a essayé d'en trouver des poissons morts tués par les méchants explorateurs pétroliers. Ils n'ont pas trouvé.
Mais ils devaient penser que ça les avait écrasés dans le fond.
Oh, ils vont trouver toutes sortes de raisons.
Et là, je reviens à ma question. Si ça analyse un kilomètre, comment vous faites pour analyser là, le Canada à combien de kilomètres? Là? Comment vous
on passe pas ça à travers tout le Canada.
C'est ça. Donc,
on va faire ça seulement
des prédictions que vous faites,
dans les... Regardez, en Alberta, je sais pas, vous êtes déjà allé en Alberta, vous avez vu, il y a des...
Malheureusement,
c'est
non,
assez
pour ma part.
Plat. Il n'y a pas de montagne tellement en Alberta, du moins pas dans la région où on a des puits de pétrole. Mm. Je parle pas des rocheuses, là. Mm. C'est assez facile de faire ça. C'est des grandes plaines. Hein? Et ça, là, un des problèmes qu'ils ont, par exemple, c'est demander les permis aux fermiers. Okay. Pour rentrer la machinerie, parce qu'ils vont briser pas mal de terrain.
Ah oui.
Et là, c'est une autre affaire. La loi des mines et pétrole en Alberta est très différente de celle du Québec.
Oui, en question.
Et là, vous êtes, je suis pas au courant des détails, mais les fermiers, c'est plus facile pour eux autres de réclamer des droits que les Québécois. Parce que les Québécois, le propriétaire de surface n'est pas propriétaire du fond.
Ouais.
Hein, donc, si on découvre une mine en dessous de chez vous, là, c'est la compagnie qui a fait l'exploration qui peut en réclamer les droits. Vous n'êtes pas propriétaire de ce qui est en dessous de vous. Mmh. Mais ça, c'est en train de changer. J'espère que les Québécois vont faire une révision rapide de leur loi sur l'exploration pétrolière.
C'est ce que le Wild Rose appelle le droit de propriété.
C'est ça. C'est ça. Il va falloir qu'au Québec, on se réveille, qu'on se revire rapidement, puis qu'on calque peut-être notre loi des mines et pétrole sur les Albertains.
Mm. Il y avait un excellent texte à ce sujet-là sur le blog de Martin Mas, justement, sur la propriété, là, le fait que le sous-sol nous appartient pas comme propriétaire.
Et d'ailleurs, on peut déjà plugger qu'on va voir Martin la semaine prochaine.
Ah oui, je vais écouter ça attentivement.
Mm. Mm. Oui. Des grands canaux. C'est
émission. Ouais, comme vous.
toujours. On augmente à chaque émission, là, le niveau augmente.
Oui.
Si je disais là, la cartographie géographique, là, ou géologique, excusez, je me suis trompé de mot, la cartographie géologique là, mondiale, est connue à combien de pourcents?
C'est pas complété. C'est ça, même la cartographie,
c'est possible un
mais
jour.
Ça dépend, non, ça sera jamais fini. Parce qu'on peut faire l'exploration géologique d'un territoire à différentes échelles. Au Québec, à grande échelle, elle est faite, ça fait longtemps. Ah ouais. Mais à échelle beaucoup plus serrée, beaucoup plus détaillée, elle est loin d'être terminée.
Donc, on est loin de découvrir demain matin un gisement miracle. Là,
on n'a pas tout exploré.
À Saint-Hyacinthe, là.
Ah non, non. Imaginez juste le diamant. Qui aurait pensé, il y a 20 ans, qu'il y aurait du diamant au Canada? On a découvert des mines de diamants dans les territoires du Nord-Ouest. Hein? On s'en vient des concurrents de l'Afrique du Sud puis de l'Australie, là, sérieusement. On a des diamants de très, très haute qualité. Moi, j'ai des collègues à l'UQAC qui sont spécialistes d'exploration diamantaire. Ils ont été formés en Afrique du Sud. Hein? L'Afrique du Sud, c'est le royaume du diamant. Donc, ces gens-là savent reconnaître les conditions pour la formation des kimberlites, qui sont des cheminées à diamants. On en a même trouvé une au lac Kenogami.
Ah ouais.
Sauf que sur peut-être 10 cheminées à diamants, il y en a peut-être juste une qui contient des diamants. Et sur celle qui contient des diamants, il y en a peut-être juste sur 10, il y en a peut-être une seule, encore une fois, qui contient des diamants qu'on peut exploiter.
Okay.
Donc, l'exploration pour le diamant est très, très coûteuse, peut-être encore plus coûteuse que l'exploration pétrolière et plus frustrante parce qu'on ne trouve rien.
Ah ouais.
Ouais.
Puis, tantôt, vous disiez qu'il y a des fois, le bitume, il peut se ramasser. Les sables bitumineux peuvent être carrément en surface.
Oui.
Donc, on marche là-dedans, puis ça
oui,
fait quick.
Oui, d'ailleurs, les Indiens, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour faire de forage. Ils ont trouvé ça en surface. Ils ont vu qu'il y avait du goudron là-dedans. Ils ont chauffé ça. Peut-être qu'ils l'ont découvert accidentellement. Ils ont fait peut-être le feu de camp sur un truc comme ça, puis ça a commencé à sentir le caltar brûlé, la couverture de goudron brûlé. Ils ont dit, tiens, puis ça fondait. On peut utiliser ça pour calfater nos canaux. Donc, les Indiens au 18e siècle, en Alberta, utilisaient déjà...
Donc, c'est pas si récent que ça.
C'est pas récent. En France,
dans la forme actuelle, peut-être, là, dans faire de l'essence, mais...
En fabriquer des hydrocarbures, c'est relativement récent. Mais là encore, les procédés sont pas encore complètement, je dirais, raffinés. Il y a une recherche qui se fait sur la concentration, je dirais, pour retirer le maximum d'hydrocarbures. Parce que le problème avec ça, c'est que dans le bitume qu'on sort de ça, il y a trop de carbone puis il n'y a pas assez d'hydrogène. Il faut baisser le taux de carbone puis augmenter le taux d'hydrogène. On fait ça en utilisant des solvants qui sont des hydrocarbures comme le naphtha, par exemple. On va ajouter, mais ça coûte cher pour rendre ça encore plus riche. Puis ensuite, on va raffiner pour obtenir finalement du crude, là, de l'essence brute. Et d'ailleurs, on fabrique ce qu'on appelle du carburant de première génération avec ça, là, qui nécessite beaucoup de transformation, parce que c'est Syncrude, dans le fond, qui est le maître d'œuvre de ça. Donc, le produit qu'on fabrique avec ce solvant-là, ça s'appelle du Syncrude.
Il y en appelle ça de l'hydrogénation?
Français, je ne le sais pas.
Non?
Je sais qu'en anglais, c'est Syncrude, le produit qu'on obtient avec ça.
Okay.
Mais c'est pas complètement fermé. Je pense que dans l'avenir, au fur et à mesure que les ressources pétrolières qui sont traditionnelles vont s'épuiser, il va falloir de plus en plus faire appel à ces ressources-là. Comme le gaz naturel, les gaz de shale vont devenir de plus en plus une ressource nécessaire à exploiter. Et ça, ben il va falloir le faire. Il y a un coût environnemental à payer à ça. Il y aura des accidents, entre guillemets, écologiques, dont il va falloir accepter les conséquences.
Pas des catastrophes, mais des accidents.
Non, des accidents écologiques, comme je disais aux jeunes hier à l'école. Oui, à l'environnement, mais pas à n'importe quel prix. Ce qui importe, c'est, notre ministre des Finances le dit, c'est le bonheur des citoyens.
Le bonheur
hein,
du peuple.
On a fait une belle chronique ici, d'ailleurs, sur la nationalisation du bonheur.
J'ai entendu ça.
J'ai entendu. Okay.
Oui.
Des beaux projets.
Oui.
Il y a eu un beau discours de Ezra Levant le 23 octobre, justement, sur le pétrole canadien, si on le compare. Là, puis là, on parle de sable, puis on a une bonne compréhension, je pense, des techniques. Mais si on le compare justement à l'exploitation du pétrole, comme on retrouve au sud des États-Unis, comme on retrouve dans les pays du Moyen-Orient, est-ce que, d'un point de vue technologie, d'un point de vue technique, est-ce que c'est si mauvais que ça?
Non. Il y a un rapport qui est sorti qui contient 438 pages, que j'ai pas lu, mais je sais qu'il existe, je l'ai vu, il est sur Internet, qui montre qu'environnementalement, les coûts sont pas si élevés que ça, puis c'est pas vrai que ça pollue autant qu'on prétend. De toute façon, on génère des gaz à effet de serre. Mais là encore, les gaz à effet de serre, est-ce que c'est si nocif que ça? Du CH4, il y en a dans les marécages, naturellement. Chaque fois que la matière organique se décompose en forêt, hein, ça dégage du méthane, du CH4. Du CO2, ben les arbres en ont besoin pour pousser. Il n'y aura pas de CO2, il n'y aurait pas de vie. La vie marine dépend de l'existence de CO2. Et moi, je ne crois pas qu'une abondance de CO2 peut éventuellement provoquer une acidification des océans aussi catastrophique que les environnementalistes le prétendent.
Et d'ailleurs, on en a fait référence tantôt, parce que là, on travaille à ce moment-là plutôt sur les idéologies que les facts and data. Là, parce que les faits démontrent que justement, le CO2, même que l'exploitation des sables bitumineux, c'est pas en fin de compte un fléau pour l'environnement. Là. C'est, on accélère peut-être dans certains cas certains procédés, puis on génère peut-être. Ouais. Mais,
Et je reviens sur la phrase importante d'Annick t'a mentionné qui vient de l'alliance Wild Rose, qu'il faut revenir à des considérations scientifiques pour prendre les décisions en matière d'environnement et non pas idéologiques. La science. Et tant qu'on n'aura pas éclairci cette question de réchauffement climatique, pour moi qui devient de plus en plus clair que c'est le soleil qui est responsable du réchauffement climatique, si réchauffement il y a, et si peu important qu'il soit, ben tant qu'on n'aura pas fait suffisamment de science, on ne pourra pas prendre de décisions qui ont des conséquences environnementales graves, qui sont basées sur des faits sérieux. Il faut que ça soit basé sur des observations et des considérations scientifiques certaines.
Mais justement, si on veut, on va dire, enlever l'embâcle qu'on a au Québec actuellement, parce que là, ça paralyse le développement du Québec. Là.
L'environnement est un frein énorme au développement économique.
C'est moratoire par-dessus moratoire. Ouais, ouais. Là, on est rendu avec des
C'est épouvantable ce que l'écologisme, je parle pas de l'écologie, l'écologisme crée comme frein économique au développement de notre province. C'est effrayant.
Mais justement, étant donné que nous, on a une mission ici, on s'est dit, on va faire une émission où on va attaquer les libertés individuelles, puis à quelque part individuelles veut dire aussi collectives, puis on va attaquer la responsabilisation des gens. Comment on peut amener au Québec les gens à se responsabiliser par rapport à l'exploitation des ressources naturelles? Parce que là, on dirait que les gens veulent tout remettre ça dans les mains de l'État, et justement, par rapport à ces groupes-là, qui sont toutes semble être ceux qui détiennent la vérité absolue et qui sont comme les consultants du gouvernement. Tu sais, on dirait que c'est un groupe de consultants, mais à quelque part, là, qui pense aux citoyens, au développement, à quelque part durable, mais au développement.
Ouais. Je pense qu'une société mature est une société dont les individus et les collectivités prennent leurs propres décisions et non pas dépendent d'une décision qui vient du gouvernement. Une société est mature, plus elle est capable de prendre ses décisions. Mais pour les prendre, il faut de l'information. Il faut d'abord une bonne éducation
d'information. Et tu penses qu'on n'en a pas à l'heure actuelle?
Pas assez d'informations. Quand je vais dans les écoles, moi, je suis...
Ou trop de désinformation, peut-être?
Oui. Parce que le manque d'information va souvent de pair avec la désinformation.
Ouais.
Là, je vois que les jeunes sont endoctrinés dans des idéologies, mais qui n'ont pas des connaissances scientifiques de base qui leur permettent de prendre des décisions rationnelles en matière d'environnement.
Oui, tu te promènes dans les écoles et
je le vois.
Et tu nous as déjà dit que justement, toi, ça te perturbe de voir le discours dans les manuels entretenus par le système.
Comme un matin, quand je leur pose la question, quel est, d'après vous, le premier problème environnemental sur la planète? Ils me disent tout le réchauffement global. Mais moi, je leur dis non, c'est l'eau potable. Il y a plus qu'un milliard et demi d'individus qui n'y ont pas accès. Ensuite, c'est les vidanges. Les ordures urbaines, puis ensuite la faim dans le monde. Mais pour eux, c'est le réchauffement. Ça leur a été rentré de force dans la tête par les médias, par leurs professeurs et souvent par leurs parents. Il y a une petite fille qui m'a dit hier, quand j'ai quitté mon exposé sur le changement climatique, elle m'a dit, dans le fond, vous dites la même chose que mon père. Ça m'a rassuré.
Nos parents, c'est
vrai. Mes parents, c'est peut-être les meilleurs conseillers qu'on a finalement.
Ah oui. Oui, moi et mon père, on était des fans de l'émission Découverte, puis maintenant, là, sans même que mon père m'écoute, là, un moment donné, on a une conversation, puis il dit, À cette heure découverte, là, ils nous ont envoyé toujours le maudit même glacier qui tombe dans l'océan. Nous
oui,
écoutables.
C'est Charles, cet équilibre fragile, t'y sert. Moi, je suis plus capable. Plus capable.
Hein. Mais ils vont chercher beaucoup leur.
Ah oui.
Ils vont chercher beaucoup leur documentaire
à la
BBC.
Ils copient ça sur la BBC ou la télévision américaine.
Ils sont très, très, très,
très écolo. Ils saltent ça, dans le fond, il fait juste lire le texte qui a été traduit en français de la BBC. C'est tout
mais,
ce qu'il fait.
Mais je vais faire une analogie, puis elle peut paraître boiteuse, mais c'est comme si aujourd'hui, quand je regarde là, toute la paralysie qu'on a par rapport à l'exploitation justement des ressources naturelles, c'est comme si à la découverte du feu, les gens auraient dit non, mets ça dans l'eau, là, il faut pas. Non, mais c'est vrai. Puis on le sait que. Non, mais on est rendu à ce point-là. C'est une question de survie. Non, mais c'est une question
de survie.
Steve, il
ne faut pas oublier une chose. Quand l'homme a inventé le feu, une demi-heure après, il a inventé le feu de forêt.
Non, mais c'est vrai.
Moi, je dis souvent à Joe que. Peut-être que les sociologues auraient dit non, si ça va créer des pyromanes.
Ça brûle, c'est ça.
Les pyromanes, là,
oui.
En attendant que le feu soit inventé, ils faisaient quoi?
Oui.
Ouais, si le feu peut être inventé, c'est incroyable.
Oui, la peur est un moteur de contrôle des populations qui est extrêmement efficace.
C'est la meilleure.
Quand vous utilisez la peur, les gouvernements l'utilisent, les politiciens, les scientifiques l'utilisent pour avoir de l'argent.
Là, on vient de trouver un sujet.
La peur.
Oui. Il faut exploiter ça d'ici la fin de la journée.
Je connais un angle qu'on pourrait le traiter.
Et là, je veux pas abuser de Rénal. Il est déjà sur un décalage.
Ouais, j'ai juste une question.
Vas-y, t'avais ta dernière. Il reste 2 minutes 30.
Là, jugez-moi, tous les auditeurs, sur ma question. Elle peut paraître niaiseuse, là. Mais mettons qu'on sait qu'il y avait des sables bitumineux en Alberta puis qu'on n'y avait pas touché. Qu'est-ce qui serait arrivé avec ce sable bitumineux-là? Est-ce qu'il y aurait été plus profond dans la Terre?
Non, ça fait des millions d'années qu'il est là. Donc, 10 ans, 20 ans, 100 ans de plus, ça n'aurait pas changé
grand-chose. Mettons un millénaire de plus.
Sauf
là.
Que si on l'avait laissé là, tout ce qu'on a sorti d'argent pour se payer des garderies puis des programmes sociaux, on ne
les aurait pas.
Et c'est ça que M. Charest devrait réaliser.
Puis quand il y a une couche comme ça, mettons qu'on n'y aurait pas touché, mais il y a une couche de bitume comme ça, de sable bitumineux, est-ce que c'était une couche étanche qui empêchait, mettons, l'eau de ruissellement de pénétrer dans la terre puis de s'en aller dans les
sources potables? Ça change
rien.
Non, c'est pas altérable.
C'est-tu que l'eau arrête dessus puis il flotte?
Non, pas de danger.
Non?
Non, c'est parce que nous autres, on est habitués de voir ça à notre échelle humaine années. Mais la Terre, elle en a vu des millions d'années. Elle est beaucoup plus stable que les activités de l'être humain.
Donc, il n'y avait pas une couche d'eau qui flottait quand ils ont commencé à découvrir les choses.
Il n'y a pas de
Donc,
danger.
Donc, c'est pas si imperméable que ça.
Non, puis on en a encore pour longtemps. Hein. On a une réserve prouvée, là. 1700 milliards de barils. 1700 milliards de barils, pas prouvés, mais évalués. Exactement. Réserve prouvée, là, c'est 174 milliards de barils de pétrole qu'on a.
Ouais. Donc, on va...
centaine de dollars.
Oui.
On peut, je pense qu'on devrait respecter les gens de l'Alberta, puis pas leur cracher dessus.
Leur dire merci,
oui.
Mais faites attention quand même. On leur dit pas d'exploiter ça de façon sauvage. On
non,
dit juste,
mais de façon rationnelle, puis on leur dit un gros merci, parce que c'est grâce à eux qu'on a des garderies à cette
place. Merci à toi, Rénal, d'être venu.
Ça m'a fait plaisir.
Toujours la bienvenue. Donc, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de XM 172. Bonne semaine, tout le monde.